On va commencer, si Dieu veut, un nouveau chapitre, le chapitre 14, Perekut Dalet, donc page 193. On peut dire que jusqu'au chapitre 13, c'était une sorte de première section du Tanya, dans laquelle l'Admour HaZaken, dans les 13 premiers chapitres, il nous a expliqué les 5 niveaux qu'il y avait dans le Ham Israël, dans le peuple juif. On a expliqué qu'il y avait celui qu'on appelait le tzaddik parfait. Je vais expliquer tout ce que ça veut dire. Il y a le tzaddik imparfait.
Un petit livre.
Un petit livre. Il y a le tzaddik imparfait. Il y a encore des livres pleins dans la bibliothèque là-bas. Normalement. Bibliothèque là-bas, à droite.
C'est pas mon ouvrage, c'est celui-là.
Il est bien là. Voilà. Mais il y en a encore, normalement. Donc, volume 1.
Oui, mais j'ai le volume 1, c'est pas bon.
Fais voir.
26-53.
Ah non, c'est volume 2.
Quelle page?
Ah
d'accord.
Voilà.
C'est toi aussi, c'est pas bon.
Non, c'est
si, si. Regarde, attends.
Il y en a là.
On pose. Est-ce que là-bas, il y en a normalement? Donc, on a expliqué, chers amis, dans les 13 premiers chapitres du Tanya, on a expliqué qu'en fait, le Ham Israël pouvait être catégorisé en 5, d'accord? 5 catégories, 5 types. Première catégorie, c'était, on a dit, le...
Djer.
Oh, Hachem.
Rien de grave.
En tout cas...
Ils t'ont piqué des lames dedans.
Il y avait un chat dedans.
En tout cas, on a expliqué qu'il y avait El Rabotai, Chazak, Ereftov, Ereftov.
Jackie, Jaco.
On a expliqué qu'il y avait 5 catégories. Il y avait celui qu'on appelait le tzaddik gamour, le tzaddik parfait. Il y avait le tzaddik chez Eno gamour, le tzaddik imparfait. Il y avait le rachat gamour, c'est le rachat absolu. Le rachat chez Eno gamour, le rachat qui est le rachat donc qui n'est pas parfait. On va expliquer tout de suite. Et Benoni, c'est celui qui était au milieu. Donc, on avait expliqué qu'en vérité, quand on appelle ici le mot tzaddik rachat, enfin, on l'a expliqué longuement la semaine dernière, c'est pas est-ce qu'il est tzaddik ou rachat dans le din. Ça veut dire comme ça. Que, tu peux avoir une personne qui a fait des fautes, mais quand il arrive en haut après 120 ans, ou quand ça arrive Rosh Hashanah, puisqu'on parle Rosh Hashanah, Dieu va dire, bon, puisque tu as une majorité de mitzvot, alors on te considère tzaddik. Ça veut dire que tu es acquitté. Quand on acquitte quelqu'un au jugement, ça veut pas dire que c'est un tzaddik. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple quelqu'un qui est attaqué au tribunal, et que le juge va lui dire, monsieur, vous êtes acquitté. Il va dire, ah, t'as vu, le juge, il a dit, je suis acquitté, ça veut dire que j'ai jamais fait de faute. Non, le juge n'a pas dit ça. Le juge, il a dit que t'es acquitté. C'est-à-dire que vu les circonstances et vu les fautes qu'on croyait que tu as fait, tu es acquitté. Ce que je vais expliquer par là, c'est quoi? Ce que je vais expliquer, c'est que l'Admour HaZaken dans le Tanya, elle a expliqué que quand on parle de tzaddik, rachat et benoni, on ne parle pas ici d'une personne qui est tzaddik et rachat dans le din. On parle ici d'une personne qui est tzaddik et rachat dans son essence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche à définir, on cherche à déterminer. Je cherche à savoir, est-ce que je suis un tzaddik, est-ce que je suis un rachat ou est-ce que je suis un benoni? Et c'est là qu'on avait les trois définitions. D'accord? Alors,
non, tu es en avance, tu es en avance.
Donc, on avait la définition. On a dit, c'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, c'est celui qui a aucune... Allez, chers amis, il faut se concentrer parce que là, on a beaucoup de travail qui nous attend. Le tzaddik, c'est celui qui a aucune pulsion négative. C'est quoi le tzaddik parfait? Celui qui a aucune pulsion négative. Le tzaddik imparfait, c'est celui qui a légèrement des pulsions négatives. C'est-à-dire légèrement très 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 léger. Après, on a dit, nous avons le rachat parfait. Le rachat parfait, c'est celui qui est malheureusement pulsion négative avérote à 100%. Le rachat imparfait, c'est celui qui a des pulsions négatives et de temps en temps, il a des pulsions positives. Et c'est quoi le benoni? C'est quoi le benoni? Le benoni, on a dit, c'est celui qui a des pulsions, mais qui arrive à les surmonter. Et c'est pour ça que le Tanya s'appelle le livre du Benoni. Parce que je pense que, exactement, c'est pas le 50-50. Le Benoni, c'est celui qui a des pulsions négatives, mais qui arrive à les surmonter. Et c'est pour ça que le Tanya appelle, le livre du Tanya est appelé le livre des Benonimes. Parce qu'en vérité, je pense, en tout cas, moi je parle pour moi, on a tous des pulsions négatives. On n'est pas des tzadikim. Seulement, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de les surmonter. Et on essaye de servir Dieu malgré nos pulsions négatives. Donc voilà pourquoi, en vérité, notre star du Tanya, c'est le Benoni. En vérité, c'est le meilleur du Tanya. Parce que le rachat, il faut. Bon, le rachat, il se laisse faire. Le tzaddik, il n'a pas de pulsion. Le Benoni, il a des pulsions et quand même, il se retient. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de mérite. Ça, c'est le Benoni. Alors, jusqu'ici, ici, dans ce livre-là, dans le livre rouge, on est dans la page Perekut Dalet, page
38.
Alors, jusqu'ici, bon, on a développé pas mal de choses. On a expliqué comment le Benoni, en vérité, il utilisait la tfila comme un vecteur pour combattre son Yitzhara. Et qu'il utilisait sa volonté. Jusqu'ici, tout ça, c'était très bien beau, mais le problème, c'est quoi? C'est que tout ça, c'était en théorie. Ça, c'était de la théorie. Et, certes, c'est de la théorie, on a présenté le personnage du Benoni. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire dans ce chapitre, et à mon avis, c'est un chapitre, je pense que c'est même peut-être le chapitre le plus important du Tanya. Parce que, vous savez, c'est comme quand tu as un commercial qui vient, qui te présente un produit. Et qui te propose le produit, et qui t'explique les qualités du produit, etc. Mais pour l'instant, le produit, il te parle pas encore. C'est-à-dire, le produit est très beau. mais tu sens pas que le produit est ce qu'il faut pour toi. Et là, à la fin, une fois que le commercial t'a bien présenté le produit, normalement, la dernière partie de son discours devrait être, il t'explique, maintenant je vais vous expliquer comment le produit est magnifique, maintenant je vais vous expliquer comment le produit est pour vous. Et là, c'est là que, où ça passe, ça veut dire que le commercial a bien parlé, où ça passe pas, ça veut dire que bon, le client va dire, écoutez, votre produit est magnifique, mais j'en ai pas besoin. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là maintenant, si vous voulez, on a eu 13 chapitres dans lesquels on vous a expliqué, on a bien montré le tzadik, le rachat, le benoni, on a bien compris que le benoni, bah, c'est ce qu'on devrait aspirer tous à devenir des benoni. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment moi concrètement, cette année, l'année 5175 qui va arriver, comment je peux faire en sorte que je vais devenir benoni? Ça veut dire comment concrètement je peux changer mon comportement et surtout, qu'est-ce que je dois raconter à mon Yetzara pour ça? Quels sont les arguments concrets que je dois dire à mon Yetzara? Alors c'est vrai, avant on a donné des arguments dans chapitre 12, comme on va dire, je vais lui dire qu'avec la volonté on peut tout faire, et qu'avec la tefila on peut tout faire. Bon, c'est peut-être des bons arguments, mais c'est des arguments qui manquent de, excusez-moi du terme, de patate. C'est-à-dire, c'est très joli en théorie, mais en pratique, quand le Yetzara il propose une avéra, qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que tu lui dis?
Non.
Tu lui dis oui, tu comprends, la volonté, tiens, arrête tes histoires maintenant, laisse-moi faire ma avéra tranquillement. D'accord? Exactement, elle peut être agréable.
C'est trop
donc tu fais pas le poids avec devant les tzara. D'accord. Ah voilà, je me disais qu'il manquait.
Faut que ce soit volume.
C'est volume, hein, c'est toujours volume.
Ok.
Donc là, en vérité, ce qu'on va essayer de faire dans ce chapitre, il va expliquer comment la mida du Benoni est une mida qui est accessible à tout le monde. Et donc pour le faire, il va devoir maintenant descendre à notre niveau. Et il va devoir nous parler comme des hommes. D'accord. Donc, pour ça, il va utiliser pas mal de techniques pour m'expliquer comment je peux et je dois devenir un benoni. Donc ça, c'est un chapitre très important. Et il faudra pas le bâcler, on prendra le temps qu'il faut pour essayer de le faire descendre à notre portée. Alors on y va. Perek Yudalet, chapitre 14. Et comme je dis, on a intérêt que ça passe parce que sinon on va être embêté. Alors, Perek Yudalet, Vehine. Vous avez page 203 ou 193 selon le livre. Vehine. Midat à benoni, imidat koladam. 180. C'est accessible à tous les hommes. C'est sûr ça.
Tous les hommes.
Tous les hommes. Puisque, rappelle-toi, c'est quoi par définition le Benoni? C'est celui qui a des pulsions, mais qui arrive à les surmonter.
Pour être un Benoni,
mais ça, c'est à moi de décider.
D'accord. Mais au final,
j'ai pas dit que tout le monde va le devenir. J'ai dit que tout le monde peut le devenir.
Oui, mais alors, si le Benoni il arrive à surmonter des difficultés, alors c'est il devient Haram.
Pas de tzadik. Le tzadik, c'est celui qui n'a plus de pulsion. Le Benoni aura toujours des pulsions.
Il a mis à 0,0 tzadik.
D'accord. On est d'accord.
On n'est pas tzadik.
On n'est pas tzadik. Écoutez, s'il y a un tzadik autour de la table qui se présente, d'accord.
Peut-être toi, mais tu
veux. À moins que c'est un tzadik Nistar.
C'est
quoi? Tu sais que c'est un tzadik Nistar? C'est un tzadik caché. Et à l'école, des fois, on disait, il y a des gens, hein, il est tellement tzadik caché que même lui, il ne sait pas qu'il est tzadik. Donc, a priori, c'est pour ça que, en fait, je vais expliquer. Pourquoi l'Admour Hazaken nous a parlé du tzadik dans le Tania? Vous savez que l'Admour Hazaken avait écrit un livre qui s'appelle le livre de Tzadikim. Il a écrit le livre des Benonim, c'est notre livre, le livre du Tania. Et il a écrit aussi un livre qui s'appelle le livre des Tzadikim. Et on dit que ce livre-là a été brûlé dans un incendie. Il y a eu un grand incendie dans la ville de Lubavitch. Enfin, c'est un village de Lubavitch. Et dans cet incendie, il y a eu beaucoup de manuscrits qui ont brûlé. Et un des manuscrits qui a brûlé, c'est le manuscrit du livre des Tzadikim. Et de là, l'Admour Hazaken, quand ça s'est passé, il a compris que c'était un manuscrit qui devait pas être publié. Donc, du coup, on s'en tient au Benoni. Je voudrais ajouter un détail important. Qu'en vérité, l'Admour Hazaken, il aurait pu commencer le Tania. Rabotage, je vous anticipe aujourd'hui.
Dan, tu peux un gobelet entre
ça. Je voulais vous servir.
Je commande des mesures.
Mais tu me commandes pas, mais il n'y a pas de problème.
Merci, mon ami.
Alors, j'attends que tout le monde se servisse.
Non, je prends du coca. Mais je. Mais t'es mignon. Qu'est-ce que tu vois? C'est pour un coup. Oui, c'est pas bien,
un peu. Oui, ça de. Attention à la plantation, je profite.
Je prépare à Rosh Hashanah.
Merci. Jackie,
merci beaucoup, Razak.
C'est bon. Je voudrais juste rajouter un point important. En fait, puisque le livre du Tania, c'est un livre qui s'adresse au Benoni, en vérité, on aurait pu commencer le Tania directement par le chapitre 13. Directement! On s'adresse au Benoni, mais on lui dit comment il doit gérer sa vie en tant que Benoni. Seulement, avant de parler au Benoni, c'était important pour l'Admour Hazaken d'abord de définir les choses clairement. ça veut dire de te montrer et de te faire arriver toi-même à la conclusion que tu n'es pas tzaddik et que tu espères ne pas être racha, donc tu espères devenir bédoni. C'était important de tout défricher pour que de moi-même j'arrive à la conclusion que je ne suis pas tzaddik. D'accord? Et que maintenant, je vais essayer de me poser la question, comment je vais arriver au niveau, je vais arriver au niveau de bédoni.
On le sait qu'on n'est pas tzaddik.
Bon, il y a des gens qui pensent qu'ils sont tzaddik.
Ah bah il faut qu'il y ait le contagnac, toi.
Oui, et les gens, ils pensent, je fais Shabbat, je fais les mitzvot, je suis tzaddik. Et t'as vu les autres comment ils se comportent?
Ah oui, c'est par ce principe.
Alors justement, on va parler aujourd'hui, t'as vu les autres comment ils se comportent. C'est un point très important, ça. Le t'as vu les autres comment ils se comportent. Parce que c'est quelque chose que, quoi qu'il arrive, on passe tous par ce sentiment. Qu'on le dise ou qu'on le dise pas. C'est comme ça, on est dans un monde dans lequel on compare tout. On se compare. Par exemple, je vais dire à un enfant, je vais dire, pourquoi t'as pas fait ça? Il va dire, oui, mais lui, il l'a pas fait. Alors quand on va grandir, on le dira pas forcément. Mais on pense pas moins. Ah bon, c'est comme ça, bah oui. Tu vas voir quelqu'un, tu vas lui dire, pourquoi t'es pas venu au cours? Il va dire, bon, je fais quand même Shabbat. Ouais, sous-entendu, il y en a qui font pas Shabbat. Il le dit pas comme ça, mais c'est ça ce qu'elle veut dire. Bien, dans ma famille, tu comprends, dans ma famille, je suis le rabbin de la famille, moi, comme ça tu me parles. Ouais. Bon, alors on y va. Mais il n'est midat à Benoni. La midat du Benoni, imidat kol adam. Voilà le titre du chapitre. La mida du Bédoni est une mida qui est accessible, il y a un livre ici en plus là, à tout homme. Avenir, t'as un livre? D'accord. Tout le monde a un livre? Ok. Mida ta Bédoni, imida de Koladam. La mida du Bédoni est une mida qui est accessible à tout homme. Ve'acharea kol adam imshoch. Et tout homme devrait chercher à devenir un Bédoni. Alors c'est un grand ridouche qui dit ici. Ça veut dire qu'à la limite, on te demande même pas d'essayer le trot tzaddik. Ça on verra dans le chapitre suivant. Est-ce que je dois essayer de devenir tzaddik? Je te dis, écoute, ne cherche même pas. D'abord, essaye de devenir un Benoni. Pourquoi? Shekol Adam Yachol Yod Benoni. Tout homme peut devenir un Benoni. Bechol Et Ufrol Sha'a. En tout instant et en tout lieu, en tout endroit. C'est-à-dire que ça ne changera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devenir Benoni ne dépend pas d'une certaine éducation, d'une certaine connaissance, d'accord? De certains acquis que je dois avoir avant. Rien de tout ça. N'importe quelle personne, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, peu importe où il se trouve, peut décider de devenir Benoni. Pourquoi? Qui a Benoni et non Moïse Bera? Parce que rappelez-vous les conclusions qu'on a eues dans les chapitres précédents. Le Benoni, est-ce que le Benoni a le dégoût du mal? Est-ce qu'on peut dire qu'il a le dégoût du mal, qu'il appelle plusieurs? Pas du tout. Il n'a pas du tout le dégoût du mal. Il est très attiré par le mal et s'il pourrait le faire, il l'aurait fait. On est bien d'accord. D'accord? Chez Zéou Davar Amassur l'élève, puisque le dégoût du mal est quelque chose qui est lié au cœur. Or, le cœur ne se maîtrise pas. Je ne peux pas maîtriser. Le cœur ne se maîtrise pas. Une personne normale ne peut pas maîtriser son cœur. Je peux pas décider ce que j'aime pas, ce qui m'énerve, ce qui m'énerve pas. Je peux pas décider. Je peux décider ce que j'en fais avec, mais je peux pas décider ce qui m'attire, ce qui m'attire pas. Ça veut dire que même si je vais me dire, je vais me répéter 100 000 fois, d'accord, je n'aimerai plus ci, je n'aimerai plus ça, ça marchera pas. Je vais toujours continuer à l'aimer. On est d'accord? On est d'accord. Donc il dit, chez Zéou Davar, Amassour l'élève. Être Benoni, d'accord, pardon, ça veut dire, avoir le dégoût du mal est une chose qui est, je suis à la page 203, enfin 193 pardon, chez Zéou Davar Amassur l'élève, c'est une chose qui est donnée au cœur, puisque c'est donné au cœur, donc, eh ben, automatiquement c'est quelque chose qui est immaîtrisable, on peut pas maîtriser. Velo kolaitim shavot. Le Benoni sait très bien que pas tous les temps sont les mêmes. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous ce qu'on a expliqué dans le chapitre 12, que il y a des moments comme la tefila dans lesquels on sent que c'est plus facile de gérer son yetzarara. Il y a des moments comme quand on va au marché, enfin le marché c'est un grand mot, c'est-à-dire quand on va dans la rue, dans lesquels c'est beaucoup plus difficile à gérer son yetzarara. Et le Benoni le sait ça. C'est pour ça que l'Admor HaZaken dit, le Benoni en vérité c'est un modèle qui peut représenter et qui peut correspondre à tout le monde. Parce que aucune personne peut dire je ne peux pas devenir un Benoni. Dire pourquoi? C'est quoi ton problème? T'as des pulsions? Le Benoni a sa pulsion. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu corresponds pas? T'as pas eu d'éducation? C'est pas grave, y a pas de problème. Y a pas besoin d'avoir d'éducation. Tu peux être le plus grand rachat, tu débarques, tu peux devenir un Benoni. Dès l'instant où tu décides de ne plus écouter ton Yitzhara, de plus suivre tes pulsions, tu deviens un Benoni à ce moment-là. Donc, Benoni est accessible à tout le monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu vas arriver maintenant à Rosh Hashanah, quand tu vas arriver à Yom Kippour, on va pas se souhaiter de devenir un tzaddik. Il faut être honnête. Ça veut dire que quand je vais dans ma tefila, je vais pas dire Dieu écoute maintenant, j'aurai plus de pulsions. Quand je vais passer devant une femme, j'aurai plus de pulsions. Non, ça sert à rien, c'est des bêtises de parler comme ça. D'accord? C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. On fait perdre le temps de Dieu en parlant comme ça, on perd son temps. Ça sert à rien de parler comme ça.
Mais avec l'âge,
par contre, mais ça sert à rien. Ça changera pas. Par contre, qu'est-ce que je peux dire à Dieu? Je peux dire à Dieu, je vais prendre sur moi, d'accord? Pas de changer que ça me parle plus. De faire en sorte que je maîtrise mes pensées. Ça, je peux le dire. On a déjà gagné du temps, là. Parce que savoir quelle est ma destination, ça fait gagner beaucoup de temps. Comme vous savez, c'est comme l'espionnage industriel. Pourquoi ils font les Chinois, par exemple, font beaucoup d'espionnage industriel. Pourquoi ils font l'espionnage industriel? Pourquoi c'est important pour eux d'aller voir ce qui se passe chez les autres? Parce que explorer toutes les pistes pour savoir quelle est la bonne piste, ça coûte beaucoup d'argent. Quand tu vas dans une entreprise et ils ont testé beaucoup de pistes et qu'ils sont arrivés à la bonne piste,
et tu n'es pas sûr.
Et ça coûte beaucoup d'argent. Donc quand ils vont espionner, savoir quelle est la bonne piste, c'est déjà extraordinaire.
Tu crois gagner de l'argent.
On est d'accord.
Recherche et développement.
Exactement. Le recherche et développement, ça coûte très très cher. Ah ben, c'est la même chose. Là, on a de la chance. C'est qu'on a un livre qui a fait pour nous le recherche et développement. Et qui te fait gagner du temps. Il veut te faire gagner du temps. Il te dit, écoute, au lieu de croire, d'accord, d'avoir des fausses espérances, de te dire un jour je serai tzaddik, ce qu'on verra plus tard, c'est pas si faux, hein, parce que bon, quand même, on devrait avoir quand même l'espérance de vouloir devenir un jour tzaddik. Mais pour l'instant, on met ça de côté. Et tu dis, écoute, mets cette espérance de côté. Ça sert à rien.
Donc un Bénoni,
d'accord,
un
Chinois. Non, nous sommes des Chinois. Oui, monsieur Bénoni, j'arrive au bout du raisonnement. Il te dit, ça sert à rien. Ne vise pas ça. C'est pas ton but. Toi, cherche à devenir un Bénoni. C'est quoi le Bénoni? Le Bénoni, c'est une personne qui sait qu'il y a des mauvaises pulsions et que ces pulsions ne partiront jamais. Et le Bénoni sait qu'il a des hauts et des bas. Et qui sait que Rosh Hashanah aura un lendemain. Et il le sait, ça. Et il le sait que maintenant je suis Rosh Hashanah, je suis tout chaud. Et ben, demain je serai tout chaud pour d'autres choses. Donc il le sait, ça, le Bénoni. Et c'est pour ça qu'il va réfléchir en conséquence. Ça veut dire qu'il va se dire, qu'est-ce que je vais faire pour que demain je ne serai pas différent? Faut bien comprendre quelque chose d'important. Il y a des gens qui pensent que si d'une année à l'autre tu restes le même, c'est déjà extraordinaire. Ça veut dire, si entre l'année 5174 et 5175, je suis resté le même, eh ben, Baruch Hashem, je suis très content. L'approche de la Chassidoute, c'est que c'est complètement faux. Dans les affaires, je ne sais pas comment ça marche, parce que je ne suis pas dedans. Mais on te dit que, en tout cas, dans la Torah, on t'apprend que si tu n'as pas évolué, c'est un problème. Maintenant, il y a des gens, comme ils ont peur de changer, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Chaque fois qu'il y a des gens, comme leurs femmes, ou comme leurs enfants, ou comme leurs amis, qui vont essayer de les mettre un peu devant la réalité, ils vont s'énerver. Ils vont s'énerver, ou ils vont sortir des blagues, d'accord, des vannes, comme on dit, des vannes pour se défendre. Et tout ça, pourquoi? Pour ne pas changer. Ça, c'est une preuve d'égoïsme. Ne pas vouloir changer, c'est une preuve d'égoïsme. C'est-à-dire, je me sens parfait. Un chassid, un bénoni, sait qu'il n'est pas parfait. Et je dois me dire qu'entre l'année dernière, je dois me poser la question, en quoi j'ai changé entre le Rosh Hashanah de l'année dernière et ce Rosh Hashanah-là? Si j'ai pas de réponse à donner à la question, c'est qu'il y a un problème. Et je dois tout faire en sorte pour que, en 5176, je pourrais me dire, voilà, j'ai changé dans ça. Ça doit pouvoir se voir. Sur un an, on doit être capable. C'est vrai que sur un ou deux jours, on n'est pas capable de voir, mais c'est comme dans une société. Si d'un an à l'autre, on n'est pas capable de voir ce qu'on a avancé, c'est qu'il y a un problème. C'est pas normal. On doit être capable de voir qu'est-ce qu'on a avancé, comment on a avancé. Dieu nous a créé pour avancer. Parce que sinon, si on pense que notre but, c'est seulement de rester sur place, Dieu aurait pu, Dieu préserve, nous enlever de ce monde en 5174. Puisque de toute façon, t'as pas avancé. Si Dieu m'a laissé sur terre, c'est qu'il pense que j'ai encore des choses à faire. Pas seulement rester sur place, parce que ça, j'étais déjà il y a un an. Donc j'ai un potentiel à développer. Donc je dois me poser des questions. Maintenant, je parle pas spécialement de l'étude de la Torah. C'est ça le point que je voulais développer aujourd'hui. Je donne pas, ça veut dire bien sûr que dans l'étude de la Torah, je dois en rajouter, mais je parle de tout. Ça veut dire, je dois me poser la question, est-ce que dans mes midot, est-ce que dans mes traits de caractère, est-ce que je me suis amélioré? Est-ce que je suis moins coléreux? Est-ce que je gère mieux les challenges de la vie? Est-ce que j'arrive bien à communiquer avec les autres? Chacun se connaît, chacun a ses problèmes. Je dois me poser la question. Est-ce que je sens que j'ai changé? Je peux même poser la question à d'autres. D'accord? Je peux même poser la question à d'autres. D'accord? Honnêtement, ça veut dire à ma femme, etc. Je peux lui dire, honnêtement, est-ce que tu trouves que j'ai changé sur ça? Honnêtement. Et faut pas avoir peur qu'on te dise non. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, on a une longue vie devant nous. On a une très longue vie devant nous et Hachem, il nous donne l'occasion. Mais, le plus important, c'est de savoir où je vais. Et c'est ça qu'il te dit ici. Il te dit ici que, c'est quoi le Bénoni? C'est celui qui sait qu'il n'a pas le dégoût du mal et qu'il n'y arrivera pas. Mais ça le dérange pas. Ce qu'il sait, c'est que, lui, il doit essayer à chaque fois de repousser le mal et de faire le bien. Mais il sait quels sont ses points faibles. On dit que le rabbi précédemment, il avait l'habitude de dire hein, qu'une personne qui est bête ne peut pas être chassid. Alors, il faut le comprendre au deuxième degré. Ça ne veut pas dire que les chassidim sont tous brillants et intelligents. C'est pas ça ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que d'un chassid, on lui demande d'utiliser son intelligence et de pas faire le bête. Parce qu'il y a des gens, vous voyez comment là, depuis 20 ans, il n'a pas changé. 30 ans, il n'a pas changé. Il est resté le même. Donc, il fait le bête. Et après, il y a un mot du rabbi de Kotz, qui disait comme ça. Il disait, quand on est jeune, on croit qu'on trompe le monde entier. Après, quand on grandit un petit peu, on comprend que, en vérité, c'est pas le monde entier qu'on trompe, d'accord? Mais en vérité, on trompe sa ville. Après, quand on grandit un petit peu, on comprend que c'est pas sa ville qu'on trompe, mais c'est sa rue, etc. Et tu réduis, après sa femme, après ses enfants, jusqu'à ce qu'à la fin, quand il est vieux, il comprend qu'en vérité, il s'est trompé lui-même. Et disait le rabbi de Kotz, il conclut en disant, quelle est la chorma de tromper un imbécile? parlant de soi-même. C'est ça la vie en vérité. Et pareil de l'autre côté, il dit le rabbi de Kotz, qui disait aussi sur un autre raisonnement aussi, mais qui ressemble à ça. Il disait quand je suis jeune, je pense que je vais changer le monde. Après, je comprends, je me dis bon, mon pays, ma ville, etc. Jusqu'à la fin, tu dis finalement, je vais me changer moi. Mais t'es déjà vieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chassid est quelqu'un qui ne doit pas être bête. Il doit être intelligent, il doit être objectif et il doit avoir des buts qui sont, d'accord, je sais pas comment dire, des buts qui peut atteindre, d'accord, pas de, qui sont réalisables. Ça sert à rien d'avoir des buts qui ne marcheront pas. C'est pour ça, comme j'avais dit la dernière fois, j'avais dit ça fait quelque temps dans un cours de Shabbat matin.
Objectif réaliste.
J'avais dit que le rabbi disait souvent que un des grands pièges qu'il y a chez les gens après les fêtes, c'est que pendant les fêtes, les gens ils prennent des grandes décisions. Des grandes décisions, des décisions énormes, ils vont changer le monde. Mais concrètement, dès qu'après ça vient à la vie de tous les jours, ils n'arrivent pas. Et donc du coup, zéro. C'est ce qu'il te dit ici. Il dit le Benoni, celui qui est réaliste, qui se connaît. Donc déjà, on a une première chose. Déjà, on a une première technique qu'il te donne. Il te dit comment devenir un Benoni, il faut être réaliste. Ça sert à rien de chercher des grands trucs, il faut être réaliste, il faut créer un projet personnalisé à ton niveau, pour toi. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire cette année pour être différent dans un an? Pose-toi la question sincèrement, honnêtement.
Pardon, mais ça veut dire qu'il faut une très bonne connaissance de soi.
Oui, mais on se connaît. Une personne se connaît. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question et quitte même à arriver à des conclusions difficiles. Ce n'est pas grave. Parce que, de toutes les façons, les conclusions sont difficiles. Donc, celui qui veut se les cacher, ben, il perd son temps. C'est dommage. Ça ne s'arrangera pas tout seul. À force de vouloir fermer les yeux en croyant que ça va s'arranger tout seul, les choses ne s'arrangent pas toutes seules. C'est comme dans les affaires. Le plus tôt tu gères le problème, le mieux tu pourras le gérer.
Mais c'est long hein, pour se connaître soi-même. Hein.
C'est vrai, vous avez raison. C'est le travail d'une vie. Socrate
qui a dit ça, c'est très long. Hein.
C'est le travail d'une vie, je suis d'accord avec vous. Mais il te dit, l'Admor HaZaken, il faut que tu aies un but, quelque chose, d'accord, que tu puisses savoir que c'est réalisable, que c'est à ton niveau.
Par exemple, tu rajoutes un peu de tefila.
Voilà. Par exemple, je sais qu'à mon niveau, quand je fais la tefila, d'accord, je comprends rien. Je comprends rien du tout, je comprends aucun mot. Alors vouloir dire j'ai envie maintenant de faire la fille de comprendre tout, c'est pas réalisable. Donc ça n'arrivera jamais. Donc concrètement, j'atteindrai pas ça. Alors qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire, je vais essayer de faire en sorte que pendant l'année 1875, ma résolution, c'est de dire que je vais prendre un chapitre de la tefila, une page de la tefila, et je vais essayer de la comprendre. Par exemple, je dis je vais essayer dorénavant faire en sorte que l'Amida je la comprends.
Mais pourquoi vous ne faites pas ça par exemple ?
Il y a moins de questions parce que chacun c'est personnalisé.
Oui, mais c'est parce que l'Amida, on l'a fait tous les jours. On l'a
vous avez raison, j'ai fait des cours sur la Tila déjà. Vous avez raison, pas de problème.
Cheminement, pourquoi on commence par Hodo et non pas par Shema et tout ça.
On a fait des cours sur ça en semaine.
Ah bon?
Oui, on doit l'entendre.
C'est enregistré d'ailleurs. Tu te rappelles? Oui. Cours sur la Tila. On a fait une série pendant un an, on a fait des cours sur ça.
Ça, c'est peut-être des choses qu'on apprend sur toi, des choses qu'on doit apprendre. Mais par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à passer devant une pâtisserie sans rentrer, se prendre un croissant à la
Oui.
Il peut prendre la décision de ne pas rentrer dedans, mais quand il sera devant, ce sera beaucoup plus difficile.
Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question.
Il aille voir les prix
mais ça, c'est ce qu'il te dit. Il te dit, ça, ça ne sert à rien de prendre les décisions que ça ne m'attirera plus, puisque ça continuera à t'attirer.
Pas toi.
Donc, ce n'est pas ça ton travail.
C'est vrai,
mon travail, c'est de ne pas manger.
Il ne mange plus.
Voilà. Qu'est-ce que je fasse maintenant? Tu veux que je change? Je ne peux rien faire, je suis comme ça. Attends, on va être clair. Maintenant, certes, ça, c'est le thème du chapitre 15. En chapitre 15, il va expliquer comment en phase 2, c'est-à-dire une fois que tu as déjà réussi à devenir un Benoni, à maîtriser tes pulsions, là on te dira maintenant, essaye de devenir un tzaddik. Mais ça c'est une phase 2, et honnêtement, avant d'arriver à cette phase 2, c'est très compliqué. Ça veut dire que je ne touche pas à la phase 2 tant que je ne suis pas passé par la phase 1. Très souvent les gens directement ils disent je veux devenir un tzaddik. Non, tu perds ton temps, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est faux ça, excusez-moi.
Le seul moyen de...
le seul moyen de... C'est d'y succomber. Alors... Ça, c'est anti-Torah, ça.
Mais c'est
le seul moyen de résister à la tentation, c'est d'ici qu'on veut. Quand un gars y réfléchit.
C'est quoi ça?
C'est complètement tordu. Alors.
Mais ça, c'est pas plus au niveau des midot qu'au niveau de la tefila, ce dont il parle.
C'est justement, je fais exprès de pas préciser. Parce que le Benoni, si tu veux, c'est sur toute la vie. Sur tous les aspects de la vie. J'ai donné un exemple quand j'ai donné la tefila.
Ouais, c'est ça.
Oui. Après, chacun, il se connaît.
Ouais, voilà, il y en a, ils sont radins, il y en a, ils sont coléreux. D'accord. Il y en a, ils sont,
voilà.
Je sais pas, ils...
Si une personne, il sait qu'il est radin, si une personne, il sait qu'il est coléreux, vouloir dire, je prends sur moi que dorénavant, l'année 5000, imaginez quelqu'un qui est nerveux. Il va dire, je prends sur moi que l'année 5175, je serai plus nerveux. Je lui dis, tu perds ton temps.
Oui,
moi, je lui réponds, tu perds ton temps.
Qu'il fasse des efforts sur sa
nerveuse. Par contre, je vais lui dire, regarde, essaie de réfléchir. Sur quoi tu es nerveux? Il va dire, je suis nerveux sur ça, et sur ça. Je dis, alors, écoute. Prends un point de ça. essaye de te dire comment maintenant, envers cette personne-là, tu vas essayer d'être moins nerveux. Prends un truc concret, t'inquiète pas. Une fois que tu auras fini ça, tu auras le temps après de. Et ça, vous savez pourquoi ? Parce qu'en vérité, c'est un piège du Yetzer Hara, ça. C'est un piège du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il sait qu'une personne, lorsqu'il sent qu'il a atteint un but, il a une grande satisfaction. Et le Yetzer Hara ne veut pas qu'on arrive à cette satisfaction. Alors qu'est-ce qu'il te fait ? Il te fait prendre des grands buts énormes que tu arriveras jamais. Comme ça, tu n'auras jamais de satisfaction et comme ça, tu vas t'arrêter. Il faut prendre des petits buts, des choses que tu peux marquer. D'accord ? Des buts que tu peux marquer, des choses que tu sais que ça va marcher. Et comme ça, tu as une satisfaction. Vous savez, chacun de nous, ça nous est arrivé qu'il y avait des challenges qu'on avait et que tu as réussi à les surmonter. Et quand tu vois un an plus tard, deux ans plus tard, tu te dis, mais attends, c'est vrai, ça fait deux ans que j'ai réussi, je tiens quand même. Tu es content. Tu es content de toi. Et ça te donne envie de surmonter encore d'autres challenges. Une fois que tu en as fait un, tu te dis, bon, bah, ça va. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur, je peux en surmonter encore d'autres. Pourquoi ? Parce que j'ai pris quelque chose de défini, de clair et de réalisable qui est à mon niveau, qui est à ma portée. C'est ce qu'il dit ici. Ça, c'est le Bedoni. Le Bedoni, c'est la Mida de tout le monde. C'est une Mida d'une personne qui sait, qui ne dédaignera pas le mal et qui aura toujours ses pulsions, mais que, d'accord, mais que, Sourmera va à Setov. Lui, ce qu'il sait, c'est que moi, je vais faire des efforts, je reprends dans les mots, pour Sourmera va à Setov, ça veut dire pour me détourner du mal et faire du bien. Pas ne plus être attiré par le mal. J'ai pas dit ça. Concrètement, me détourner du mal. Ça veut dire faire en sorte de me faire des efforts, de pas faire d'avéra. Même si je suis grave attiré. Et même, rappelez-vous pour ceux qui étaient là la semaine dernière, même si je vais me dire, oui, mais est-ce que je suis pas un mytho? Vous rappelez l'argument la semaine dernière? Celui qui va dire, oui, mais est-ce que c'est pas mytho tout ça? Tu fais comme si, alors qu'en vérité, au fond de toi, tu sais très bien que t'as des pulsions. C'est pas grave.
Le lundi, le mardi, mais le mercredi, en plus,
non, j'ai pas dit ça.
Tu peux donner à...
J'ai pas dit ça.
Non, vous n'avez pas dit ça.
Je dis pas celui-là.
Non, tiens, oui.
David.
J'ai pas dit ça.
Non, c'est pas vous qui avez dit ça, c'est moi qui dis. La tentation,
ça peut être une technique.
On peut résister premier jour, deuxième jour, troisième jour, mais un jour tu succombes.
Écoutez, on va prendre l'exemple d'un régime. D'accord. Je vais vous donner l'exemple, monsieur Benita. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà fait un régime sans vouloir vous avancer?
Oui, oui. Tu crois qu'on a comme le mérite d'avancer?
Alors écoutez bien, je vais vous poser une question. Quand on fait un régime.
Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant.
Attends, je réponds à la question d'abord. Quand on fait un... Non, parce que c'est important, c'est important. Je pense que le spirituel, pour le comprendre, il faut faire appel au matériel. Quand une personne veut faire un régime, d'accord, donc il est dérangé par son poids, parce que bon, peu importe, d'accord, il est dérangé, il veut faire un régime. Il prend la décision de faire le régime. Mais il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Parce que il a pris une décision qui est trop grande, et par rapport aux tentations qu'il y a, ça ne marche pas. Et chaque fois, il dit, bon, ça va, juste aujourd'hui. Juste une fois, comme ils disent les Belges, d'accord? Juste une fois, il dit, c'est pas grave, je vais laisser, mais concrètement, ça ne marche pas. Pour que ça marche, comment il doit faire? Il doit avoir un coach. Mais d'accord ? C'est quoi ou bien un coach, ou bien il y a aujourd'hui des groupes, comment ils appellent ça, des groupes de d'accord ?
De parole.
Des groupes, voilà.
La volonté avant tout, la volonté.
Ça veut dire, non mais attends, mais la volonté, on a tous la volonté. Seulement le problème, c'est que des fois, la volonté, tu veux le faire, mais ça marche pas.
Donc c'est pas un instrument. Donc,
combien de personnes,
pas de volonté, alors.
Demandez à vos femmes, combien de personnes, d'accord, ils ont décidé, ils ont la volonté, mais ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ? Parce qu'il n'y a pas de coach.
Ça marche une semaine, puis après ça.
Donc ça marche pas. Ça veut dire que ça marche pas. Pour moi, ça marche pas, ça. Quand un truc qui marche une semaine et qui marche pas, c'est-à-dire que ça marche. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il n'y a pas de coach. Parce qu'il n'y a personne qui t'aide. Donc il faut utiliser les mêmes choses. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Il faut demander de l'aide, demander à quelqu'un, d'accord? Ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être un ami. Je vais lui dire, écoute, voilà quelque chose sur lequel j'aimerais mieux travailler. Est-ce qu'on peut travailler ensemble, réfléchir ensemble, comment je peux régler? Et il faut savoir que dans la chassidout, les chassidim, ils avaient tous un très très bon chaver. Ils avaient un rav, ils avaient un chaver. Deux postes complètement différents. Le rav, il représente l'autorité. Le chaver, c'est l'ami. On dit au chaver ce qu'on ne dit pas au rav, on dit au rav ce qu'on ne dit pas au chaver. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. C'est très important d'avoir un chaver. Il y a des gens qui pensent que le chaver peut être la femme. Peut-être, pourquoi pas. Mais bon, je ne sais pas si c'est une bonne solution. D'accord ? D'accord ? Voilà. Alors, je ne sais pas. Non, moi, je ne sais pas. Après, chacun comme il sent. Mais je pense que c'est très important, d'accord ? C'est très important, et en tout cas, on apprend ça dans le monde de la yeshiva, d'avoir un chaver. D'accord ? D'avoir un chaver. Un chaver, c'est une personne, d'accord ? C'est une personne à qui tu sais que tu peux te confier, et que tu ne vas pas déprécier à ses yeux quand tu vas lui raconter entre quatre yeux ce que tu es vraiment. Il va pas te juger. Parce qu'il te connaît, il sait qui tu es, et bon, ça veut dire qu'il va pas te juger. C'est-à-dire, c'est quelqu'un vraiment qui veut ton bien. C'est très dur de trouver un chaver. C'est pour ça que la Mishnah a dit assez les chaver. Un chaver, ça se travaille. Ça se trouve, d'accord? Kné les chaver. Ça s'acquiert. C'est très compliqué d'avoir un chaver. Parce que ça demande beaucoup d'investissement. Parce que c'est réciproque. Pour avoir un chaver, moi aussi je dois être son chaver. Moi je pense que des choses comme ça, il faut de l'aide. C'est impossible d'avancer si on n'a pas de l'aide. Chez les chassidim, c'était une base qu'il fallait avoir un mashpia. Donc le mashpia, c'est le rav, celui qui t'aide, qui t'encourage à avancer, et un chaver. Les deux choses. et le Khaver, si vous voulez, le Rav, c'est celui qui aura l'autorité pour te remettre en place, et le Khaver, c'est celui qui sera à ton niveau pour t'aider à déterminer qu'est-ce qui est à ton niveau et qu'est-ce qui n'est pas à ton niveau. Quelqu'un qui est à ta portée, qui va dire, écoute, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi. C'est comme un bon ami dans les affaires. Vous savez, on a vu que les dernières années, chaque fois quand les gens demandaient au rabbi des conseils dans les affaires, le rabbi répondait toujours « Ke'atsat yedidim mevinim ». Il faut suivre le conseil des amis connaisseurs. Les deux choses, un ami connaisseur, parce que ça veut dire un ami qui doit du métier, bien sûr, et qui est un ami. Comme c'est un ami, il sera capable de te dire qu'est-ce qui est à ta portée, qu'est-ce qui n'est pas à ta portée. Et ça, un ami, ça vaut tout l'or du monde. Et c'est ce qu'il te dit ici. Il faut trouver, bon, ben ça se travaille.
Ouais.
Ça se travaille. Qu'est-ce qu'on croit?
Il est arrivé un truc que je très intéressant chez Zegori tout à l'heure. Oui, un bon voisin. Une chose très intéressante, c'est que imagine quelqu'un qui a résisté à la tentation lundi, mardi et mercredi, il est tombé.
Oui.
Est-ce qu'il aura le mérite d'avoir résisté lundi, mardi?
Évidemment. Évidemment. Mais M. Benita a dit, il va décider que lundi, mardi, il se retient. Et mercredi, il a un jour off.
Non, il a pas dit ça.
Il est marié lundi, mardi, mercredi, il est pas marié, tu vois.
Non, pas marié.
Non, c'est le contraire.
Ah, c'est le contraire.
Il se marie tous les jours, hein.
Il se marie tous les jours.
Alors ça marche pas. Avec Dieu, je parle marié avec Dieu. D'accord, ça marche pas. Ça, dès le départ, je dois prendre quelque chose qui est à ma portée. Progressivement. Faut pas avoir peur de dire, je fais ça maintenant, je rajouterai après. Je vous ai raconté, ça fait quelques mois, l'histoire d'un chassid qui a suivi justement ce conseil. Et il n'arrivait pas à faire la tefila. Chaque fois qu'il commençait à faire la tefila, son esprit partait dans tous les sens, il n'arrivait pas à faire la tefila. Il est parti voir son maître, je crois que son maître était le Baal Shem Tov. Son maître, le Baal Shem Tov, lui a dit comme ça. Il a dit, voilà ce que tu vas faire. Tu prends ton sidour, tu vas faire que la première page avec la kavana. Une fois que tu sens que tu as acquis la première page, après les autres, tu les bats, tu traces, c'est pas de problème. C'est juste la première page. Une fois que tu sens que la première page, tu l'as acquis et que tu la vis, tu cornes légèrement de cette page. Pour dire, check, c'est fait. Après, tu tournes la page. Parce qu'après cette page-là, une fois que tu l'as vécu plusieurs fois, ça va vite. T'as plus vite. Après, tu fais la deuxième page. Et comme ça, tous les quelques semaines, tu cornes une page. Ça lui a pris des années. À la fin de sa vie, il a corné toute la page en sidour. Mais ça lui a pris toute sa vie.
Ah, carrément.
Bien sûr, je crois.
Non, le livre, il était dans la
salle. Ça, c'est un livre qui vaut... Il a dû demander à être enterré avec. Ok. Donc, on va continuer dans les mots. C'est quoi le Benoni? Et là seulement, Sourmera va à Setov. Le Benoni sait qu'il a des pulsions. Il sait que les pulsions seront toujours là. Seulement, c'est quoi, sur quoi il va se travailler? Il va se travailler pour concrètement s'écarter du mal et faire le bien. Daïnou, ça veut dire... Mais Paul Mamash, c'est pas que dans son cœur il aura plus de mal. Non, dans son cœur il a toujours du mal, des pulsions négatives. Uniquement sur le plan du concret, sur le plan du réel, il va s'efforcer de ne pas faire d'avérot concrètement. Mais Maasé, rappelez-vous les fameux trois vêtements, Maasé, Dibour, Marshava. Action, parole, pensée. Shebahem, Aprira, Vayecholet, Ve'arishut, Netuna, Lecholadam. C'est uniquement dans ces trois choses-là, ça veut dire la pensée, la parole et l'action, que le choix, la possibilité et la domination a été donnée à tout homme. Tout homme a le choix, la possibilité et la domination de décider quelle pensée j'aurai, quelle parole je dirai et quelle action je ferai. La asot, de faire, ou les daber et de parler, ve la chashov et de penser, gam machéou neget tahavat libo ve efra mamash. Dieu m'a donné la capacité de faire, de dire et de penser même ce qui est contraire à la pulsion de mon cœur. Ça, c'est un chidouche. Ça veut dire que tu peux avoir une personne, par exemple, qui a une pulsion de colère, il est énervé contre quelqu'un, et ben il peut maîtriser sa parole pour parler doucement, calmement, comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la capacité de maîtriser la pensée, la parole et l'action, de faire en sorte que si je veux, naturellement, ils sont liés directement aux sentiments. Mais Dieu m'a donné la capacité que si je veux, je peux les détacher de mes sentiments. Et ça, c'est ça le livre à 8. On a le livre à 8 que sur ces trois vecteurs. Pensée, parole, action. Sur tout le reste, j'ai aucun livre à 8. Et ça, le Benoni le sait. Donc le Benoni, dès le départ, il dit, je vais pas commencer à me travailler sur des choses qui sont pas à ma portée. Je vais travailler sur quelque chose qui est à ma portée. Je vais essayer d'améliorer mes actions, mes paroles et mes pensées. Vous avez remarqué l'ordre dans lequel il a dit. Action, parole, pensée. En général, l'ordre qu'on utilisait dans Tania, c'était quoi? C'était pensée, parole, action. Pourquoi il commence par action, parole, pensée? Parce qu'en vérité, plus on avance et plus c'est difficile. Se retenir d'agir, ça, c'est plus facile. Je vous donne un exemple. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui m'a énervé. D'accord? Il y a trois choses. D'abord, j'ai envie de lui décoller une droite. Premièrement. Après, deuxièmement, j'ai envie de lui dire des choses. J'ai envie de lui dire des paroles pour lui dire qu'il m'a énervé. Troisièmement, je pense qu'il m'a énervé. Quel est le plus facile à me retenir? L'action. Ça, je peux me retenir. Mais je vais l'insulter, je vais le déchirer. D'accord? Après, je monte une gamme. D'accord? Je monte une gamme, je me retiens un peu plus, je me tais. Mais dans ma tête, je pense pas moins. Troisième gamme, dans ma tête, j'y pense plus. Ça, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il est parti dans cet ordre-là. Pour te dire que le Benoni, il sait qu'il faut aller progressivement. C'est pas directement, il va dire, si quelqu'un m'embête, je penserai que du bien sur lui. Non, le Benoni, il pense pas comme ça. Il va dire, d'abord, je vais essayer de me retenir dans mes actions. C'est pas grave, dans ma tête, je penserai autre chose, c'est pas grave. Mais déjà, je vais essayer de me retenir dans mes actions. Je vais me retenir dans les actions. Après, une fois que j'aurai fait ça, peut-être dans un an, ou dans 6 mois, ou dans 2 mois, je me retiendrai dans les paroles. Et si ça marche, après seulement je passerai à la pensée. Vous remarquez comment il a changé l'ordre, alors que c'est pas l'ordre habituel.
Ouais, mais alors si je me retiens dans mes pensées, dans mon action, oui. il va détecter cette faiblesse en moi, il va abuser de cela, et à chaque fois, il va recommencer.
Vous inquiétez pas.
Je m'inquiète pas. Si, je m'inquiète.
Qui? Vous inquiétez pour l'autre?
Pour moi.
D'abord, monsieur Venita, on énerve seulement quelqu'un qui s'énerve.
D'accord.
Mais pas... non, oui. Quand j'énerve quelqu'un et que je vois que ça l'énerve pas, je m'arrête. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais dis, si on va dans cet ordre, la nervosité va se tasser.
Elle va?
Elle va se tasser.
Ah oui,
évidemment, bien sûr.
L'autre, il va savoir que.
Voilà, elle va se tasser, évidemment. Pas, ça veut pas dire que je serai plus nerveux. C'est-à-dire, je vais apprendre à me travailler.
Enfin, nous, allez-y.
Tu comprends? Je vais expliquer ce que je veux dire.
Oui, non, mais ce que tu veux dire, c'est que ça va changer automatiquement.
Je vais expliquer ce que je veux dire. Ça veut dire comme ça. Imaginons par exemple quelqu'un que chaque fois qu'on lui parle, qu'on lui manque de respect, il s'énerve. Il s'énerve, le sang lui monte à la tête, il s'énerve. Il ne pourra pas changer ce caractère que ça ne l'énerve plus. Ça continuera à l'énerver probablement jusqu'à la fin de sa vie. Peut-être. Peut-être qu'on verra dans le chapitre d'après qu'il réussira à se travailler, mais c'est très improbable. En général, on reste avec son caractère, ça ne change pas. Ça veut dire que si ça t'énerve quand on te parle mal, ça continuera à t'énerver. Seulement, sur quoi tu vas te retenir? Sur la réaction physique que tu auras, sur la réaction verbale que tu auras et sur la réaction mentale. Ça, tu peux te retenir. Maintenant, le fait que ça m'énerve ou ça m'énerve pas, ça, tu pourras pas te retenir. Seulement, ce que tu vas te retenir, c'est concrètement comment je réagis après. Si tu veux, tu peux te retenir sur la réaction que tu auras.
Rien, Brandao.
La réaction, mais dans l'action.
Mais pas sur le fait que ça m'énerve. Ça, je pourrais pas changer. Ça, le Benoni le sait. Et donc, il y va progressivement.
En quoi le fait de te retenir, c'est une influence sur ma méchante?
En quoi le fait de
se retenir fait une influence sur la...
Parce que c'est une mitzvah. Bien sûr. La Torah te dit de ne pas t'énerver.
La Torah dit pas.
Bien sûr.
Et dans le cas contraire.
C'est une mitzvah. Je parle de mitzvah ici.
Dans ce cas-là, tout le monde est beau, tout le monde est gentil.
Pas du tout, j'ai pas dit ça. Prends vous parler preuve du tas.
Non, non, rapport. C'est le contraire.
Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas.
Non. Monsieur Benita, la colère c'est un exemple. Vous pouvez prendre n'importe quel exemple. Dans toute la Averot. Il y a faire la Avera en pensée, en parole et en action. Je vois, dans toute la Averot, il y a ça. Dans manger pas cachère. Dans toute la Averot, il y a la pensée, la parole, l'action.
Ça conduit la pensée.
D'accord? On te dit, d'abord, essaye d'arrêter l'action. Peu importe ce que tu diras, peu importe ce que tu penseras. Une fois que tu as réussi à calmer l'action, après tu passes à la parole. Et après seulement tu passes à la pensée. Ne va pas directement dire, ça y est, c'est fini, je recommencerai plus, je serai plus attiré par ça. On te dit, c'est faux, ça tiendra pas, tu perds ton temps.
Mais ça commence quand même par la pensée, malgré tout.
Voilà. Oui, mais on te dit, ne te travaille pas sur la pensée.
Oui,
travaille d'abord sur l'action.
Au départ, ça doit être la
pensée. C'est ça le ridouche qui veut dire ici.
Oui, départ,
mais le problème, c'est qu'on parle ici des choses qui sont des acquis. C'est-à-dire, je suis né comme ça. Et que le Benoni sait qu'il est comme ça. Et que, quelque part, c'est même pas de sa faute. Il est comme ça. Donc, il doit apprendre à vivre avec. Donc, il va travailler progressivement. Action, parole, pensée. Dans l'ordre inverse, comme on l'a dit, ça veut dire il va aller progressivement pour ce travail.
Et dans le cas contraire, celui qui est toujours dans l'action négative, c'est-à-dire celui qui parle, qui frappe et qui agit.
Okay.
Et en plus, le mec, il est à fond dans la tefila.
Alors,
il change jamais.
Donc, on va donner un exemple concret. D'accord. On va donner un exemple concret. Il faut toujours commencer par l'action. Toujours. C'est l'action. C'est pour ça que je vous donne un exemple. Par exemple, le rabbi a lancé des campagnes de mitzvot dans lesquelles il disait « Tu vois un juif dans la rue qui n'a pas mis les tefilines, tu lui mets les tefilines. » Ça veut dire que je suis passé direct par l'action. La théorie aurait dû dire « Qu'est-ce que j'aurais dû faire ?» J'aurais dû d'abord commencer par lui parler, d'accord ? C'est-à-dire d'abord la pensée, après la parole, après l'action. Après seulement à la fin, une fois qu'il est convaincu, là que je lui mets les tefilines. On commence pas comme ça. Direct, tu lui mets les tefilines. Direct, tu l'encourages à faire une action. Parce que quand on travaille contre le Yetzarara, c'est trop compliqué de travailler directement à la base qui est la pensée. C'est trop compliqué. Parce que tant qu'il y a l'action, c'est très difficile. Parce que l'action t'attire. Donc c'est trop compliqué. On te dit, tu sais ce que tu fais. D'abord, travaille sur l'action. Après l'action amènera que la parole sera différente, et après la parole fera que la pensée sera aussi différente. C'est-à-dire, c'est pas grave si maintenant celui qui met les tefillines, dans sa parole il est pas dedans, et dans sa pensée il est pas dedans. C'est pas grave. Fais-lui quand même mettre les tefillines en action. C'est l'approche générale. C'est qu'on commence d'abord par l'action. Même dans les affaires, c'est comme ça. D'accord?
C'est original.
Tu veux faire un truc à quelqu'un, tu lui dis, venez l'essayer, essayez-la. Essaye-la, essaye, vas-y. D'accord?
Tu as raison.
Une voiture, tu après tu l'expliques, message, après tu en parles, après il pense. Mais d'abord tu dis essaye là d'abord.
C'est vrai que je connais beaucoup de gens qui ne mettaient pas des félines et grâce à Lubavitch qui ne savait rien.
Évidemment, après, l'action, c'est ce qu'il te dit ici. Et ça c'est l'approche du Benoni, et ça c'est l'approche qu'on doit tous avoir. Ça veut dire qu'on connaît tous nos points faibles, et dans nos points faibles on doit se travailler d'abord sur l'action. Alors, d'abord je m'arrête. Après je vais réfléchir comment la parole va être différente, comment la pensée va être différente. Il continue dans les mots. Donc on a dit, Dieu, ça veut dire, je continue toujours à avoir des pulsions négatives, mais Dieu m'a donné la possibilité que ma pensée, ma parole et mon action vont être détachées de ma pulsion. C'est ça ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que j'ai une pulsion qui est tordue, mais Dieu m'a donné le libre arbitre de détacher ma pensée, ma parole et mon action de mes pulsions. C'est sur ça que j'ai la marge du libre arbitre. Ça veut dire, qui gam becha'a she'alev chomed, ou mit ave. Même lorsque le cœur veut et désire, ezota ava gashmit, un plaisir matériel. C'est-à-dire que le cœur, il désire très très fort, d'accord? Il a une pulsion, il veut un plaisir matériel. Un plaisir permis ou un plaisir interdit. Pourquoi il précise c'est un plaisir permis? Parce que,
Permis.
Parce que même un plaisir permis pour le Benoni, il n'en veut pas.
Un exemple.
Un exemple d'un plaisir permis?
Une voiture.
Voilà. La nourriture. Le Benoni travaille même sur ça.
Non, pourquoi? Il veut pas de mal.
Il veut pas être dans les plaisirs, parce qu'un plaisir permis attire un plaisir interdit. Mais c'est un niveau. On va rester au plaisir interdit pour l'instant. Ras ve shalom. Yachol li gaber ou le asiyar dato mimena le gamre. 2 secondes. Donc, même lorsque le Benoni sait qu'il a une pulsion et il a une envie. Vous savez ce que c'est une chemda? Chemda, c'est une envie très très profonde dans le cœur. C'est une envie que tu t'endors avec et tu te lèves avec. Chemda klevavi. D'accord? Chemda klevavi, ça veut dire quoi? D'accord? C'est une recherche. Non. Bien sûr. Chemdat. C'est quoi Chemda? D'accord? Eret Chemda. C'est quoi Chemda? C'est quelque chose qui est un projet pour toi, que tu dors avec, que tu te lèves avec, qui tient à cœur. Alors il te dit comme ça. Le Benoni sait que même si son cœur continue à avoir cette Chemda, il continue à avoir cette pulsion, cette envie, qui ne part pas et qui ne le lâche pas. Et que, il va dire, est-ce que ça veut dire que j'ai pas changé? Le Benoni dit, mon but n'est pas de changer, d'accord? Mon but n'est pas de changer cette remda. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est seulement, yachol leid gaber, ou la siyar datomi mena le gamre. Il peut quand même se renforcer et détourner son esprit. Donc j'explique ce qu'il veut dire ici. Imaginez une personne qui a une pulsion très très forte. Il veut faire une bêtise bien juteuse comme ça. Et ça ne lâche pas. Il dort avec, il se lève avec, ça ne lâche pas depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, ça ne lâche pas. Il te dit comme ça. Il te dit, Dieu t'a donné un libre arbitre, et avec ce libre arbitre, tu peux décider de détourner ton esprit et de ne pas y penser. Bon. Maintenant, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut réfléchir comment je le fais.
Comment?
Premièrement. Mais c'est pas seulement comment. Pour avoir le comment, il faudra d'abord pourquoi.
Combien de temps ça va durer?
Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais parler à mon Yetzirah, il faut me donner des arguments à donner à mon Yetzirah. Il faut me donner des arguments à donner à mon Yetzirah et à me dire à moi pour m'expliquer pourquoi je ne dois pas faire cette avéra. Et ça, c'est le plus compliqué. Et c'est là qu'on rentre dans les arguments. Parce que, jusqu'à maintenant, c'était de la théorie. Il dit, oui, tu peux le faire, il va le faire, il faut aller progressivement. Là, maintenant, il va te donner un argument logique pour te dire comment tu peux parler à ton Yetzirah. Comment tu peux lui dire, laisse-moi tranquille avec cette avérante-là. Ça veut dire, la pulsion est toujours là, mais tu écartes ton esprit, tu penses à autre chose, tu écartes ton esprit en disant quelque chose à ton Yetzirah. En te disant, je ne veux pas, d'accord, quelque chose. Je ne veux pas arriver là. Alors, quel est l'argument que tu vas dire au Yetzirah? Il nous faut un argument. Dire au Yetzirah, d'accord. Dire au Yetzirah, alors, je vais faire un tour de table. J'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous auriez dit au Yetzirah? Comment tu fais pour retenir le Yetzirah d'une avéra?
On a déjà dit.
D'accord.
Tu penses à autre chose?
Bon, tu lui dis c'est interdit. D'accord? Tu lui dis c'est interdit. Qu'est-ce qu'il va te répondre?
Non.
Bon. Il va te dire, je n'ai rien à faire. D'accord?
Non, tu sais ce que tu veux dire. Tu penses à autre chose, moi.
Non, j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu dis à ton Yetzirah?
La punition, tu dis que tu vas être puni par rapport à ça.
D'accord. La punition. Très bien, j'entends, j'écoute.
Qu'est-ce que ça va m'apporter?
Très bien.
Explique-moi.
Non, attendez, je vais expliquer, j'ai envie d'entendre de ce que vous me dites. Qu'est-ce que vous dites à votre Yetzirah? Enfin, en théorie, hein, vous n'avez pas besoin de raconter. Non, d'accord. Non, mais pourquoi je ne ferais pas la vera? Et pourquoi je ne ferais pas la vera? Pourquoi je ne la ferais pas?
ses conséquences.
Et c'est quelque d'accord. chose d'agréable.
Avec toutes les mises votes que j'ai.
Alors attendez. Donc attendez, là j'ai déjà plusieurs arguments. Là j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit j'ai peur de la punition. D'accord ? Ce que vous avez dit. D'accord ? J'ai eu encore un autre argument, qu'est-ce que tu as dit toi ?
Qu'est-ce que
ça va m'apporter ? D'accord ? Pour ça, t'inquiète pas, il est de Sahara, il va te répondre. Il va dire, ton Gan Eden, tu l'as jamais vu, mais moi, je te propose des trucs ici, là, sur la table. D'accord ? Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Ok ? Qu'est-ce qu'on en pense, Sahara ?
Que ça va me faire chuter et que je vais revoir ce qu'on dit comme une épreuve, une fois qu'on l'a pas surmonté, on garde toujours cette même
donc, épreuve. La punition.
Donc, pas forcément la punition, mais le fait de jamais pouvoir évoluer.
D'accord.
De jamais progresser.
J'entends.
Ce qui est une défaite personnelle.
Donc la punition. Ok.
Ouais, mais tu peux pas dire
c'est
ça.
Pas, c'est pas forcément une punition, c'est
ah non, un. La conséquence.
Ouais,
d'accord.
Le gain.
Il va la nuire. D'accord.
Soi-même, finalement.
Hein, mais bien sûr.
C'est quelque chose qu'on a inventé.
Moi, je pense que le but de chaque homme, c'est effectivement se parfaire.
D'accord.
On essaie d'avancer.
D'accord.
Si à chaque fois qu'on a un truc, on retombe, on se dit bon.
On se dit, ça suffit.
Ça
d'accord.
Bon,
ok. J'entends.
Les remords qu'on va avoir après.
Donc, tu sais que tu vas avoir des remords après. Donc, du coup, tu dis, puisque je sais que j'aurai des remords, autant me retenir plus tôt. D'accord. C'est bien ce que vous dites. On va. Enfin...
Oui,
ok. Bah, suivant, next. Oui. Ah, tu nous proposes autre chose. Non, mais c'est juste ce qu'il te propose.
Détourne.
Il va dire, attends, t'as vu ce que je te propose ? Tu fais pas le bois, là.
Je propose encore mieux.
Hein ? Qu'est-ce que tu dis, Sarah ? Il propose
mieux. Je l'amène à la synagogue.
Hein ? Quoi ? Là, on s'en bat ? Merci.
Quand il y avait la...
Hein ? Jackie ?
Hein ?
Wesbourg.
Moi je détourne mon regard, je regarde pas, je veux pas regarder.
Mais je pense pas à moi.
Je regarde pas,
mais il pense. Allez.
Moi je lui présente les bonnes actions de la journée.
D'accord, ok, alors j'écoute. D'accord, on a eu pas mal de points, je sais pas si vous voyez là, on a eu au moins une dizaine de points là.
Oui, différents.
Ok. Un point qui est sorti souvent de ce que vous avez dit, c'est le point de la peur des conséquences, donc la peur de la punition. D'accord. Et en fait. Avant, au début du cours, j'ai posé une question à plusieurs personnes ici, et c'était pas par hasard. J'ai dit, est-ce que Rosh Hashanah, ça vous fait peur ? Plusieurs personnes ont répondu, oui, Rosh Hashanah, ça nous fait peur. Pourquoi Rosh Hashanah, ça peut faire peur ? Parce qu'on sait que Rosh Hashanah, c'est un jugement, et on sait que vu la verrote qu'on a fait, bah, le jugement, c'est pas forcément gagné. D'accord ? Donc ça fait peur, c'est un jour qui fait peur.
Oui, mais ça, d'accord. C'est quand tu connais les conséquences, parce que pour ouais. tous ceux qui pratiquent pas, ils connaissent pas les conséquences.
Non, on parle pour nous déjà. Attends, on va développer pour nous déjà. D'accord ? Seulement. Moi, je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème dans tout ça. Ce qu'il va dire ici. Alors, je voudrais juste raboter et développer un petit peu. Il faut comprendre quelque chose. Que quand on rentre dans la peur, le problème qu'on a quand on sert Dieu par la peur, ça veut dire qu'à chaque fois, qu'est-ce qui me fait faire teshuva finalement à Rosh Hashanah ? C'est la peur. Le problème qu'il y a, c'est que la peur, il doit toujours avoir une surenchère. Ça veut dire, ce qui me fait peur aujourd'hui, demain ne me fait plus peur. Donc demain, il faut augmenter quelque chose qui me fasse encore plus peur. Et ce qui me fait peur demain, après-demain ne me fera plus peur. Ça, c'est en fait le problème que dans lequel rentrer, ceux qui étaient à l'époque du Baal Shem Tov, qu'on appelait les Magidim, les Magides. Les Magides de l'époque, il y a eu des bons Magides, mais il y a eu des Magides qui n'étaient pas bons, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils venaient dans les villes et ils faisaient peur aux gens. C'était payé pour ça. Prédicateur, exactement. Ils faisaient peur aux gens, ils leur disaient, vous aurez un Guéhinnom, vous aurez ci, vous aurez ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on lit l'histoire, on voit que d'une année à l'autre, le même prédicateur, quand il revient, il peut pas répéter le même discours que l'année dernière.
Ben non. Ah
oui, parce que l'année dernière, il a décrit le Guéhinnom avec des termes, on va dire, un peu assez explicites. Mais c'est plus assez explicite pour l'année d'après. L'année d'après, il faut aller encore plus explicite. Et donc, la surenchère. Et la surenchère, et la surenchère, et la surenchère, la surenchère. Et ça s'arrête jamais. D'accord? C'est pour ça que la chassidoute n'est pas vraiment fan de cette approche. Non pas que c'est faux. Non pas que Rosh Hashanah, on est à la plage, d'accord? Rosh Hashanah, c'est un moment dans lequel on a peur. Bien sûr que c'est Yom HaDin. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit dans les textes, quand on voit dans la Gemara, le facteur principal de Rosh Hashanah, Rabotai, c'est pas que Rosh Hashanah, on a peur du din. Rosh Hashanah, c'est écrit dans la Gemara, et le Zohar s'arrête beaucoup sur ça, c'est le jour où on couronne Akadosh Baruch Hu comme un roi. Très important ce que je suis en train de dire. Ça veut dire comme ça. En vérité, Rosh Hashanah, il y a deux aspects. L'aspect principal de Rosh Hashanah, c'est que c'est le jour dans lequel on accepte la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un plaisir pour nous d'accepter la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Donc nous sommes le peuple, et nous disons à Dieu, on veut que tu sois notre roi. Ça, c'est très positif comme définition. Alors, bien sûr que c'est un roi qui inspire la crainte, mais ça veut dire qu'on est très content de le faire. On est très content d'accepter la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. En parallèle, comme on renouvelle le contrat avec lui, donc, il va lui aussi regarder les clauses. On dit, bon, bah, attends, si on renouvelle, parce qu'il renouvelle le contrat chaque année. Le jour anniversaire, on renouvelle le contrat. Il dit, bon, attends, on va ouvrir ton classeur. Et hop, on regarde. Et là, on va voir, bah, finalement, est-ce qu'on te remet les mêmes clauses que l'année dernière? Est-ce qu'on te met plus ou est-ce qu'on te met moins? Mais ça, à la limite, c'est annexe. Il y a ça, Rosh Hashanah. Mais quand on va dans la Gemara, le thème principal de Rosh Hashanah, c'est pas ça, c'est pas le Yom HaDin. Le thème principal de Rosh Hashanah, c'est le fait qu'on couronne Akadosh Baruch Hu comme un roi. Comment on le couronne? La Gemara dit, bah, met Amilchuni, va shofar. Pourquoi on sonne le shofar? Pourquoi on sonne le shofar? À quoi sert de sonner le shofar? Le Rambam, il dit comme ça. Maïmélud, il dit comme ça. Il dit que la Torah n'a pas donné de raison pour sonner le shofar. Donc, puisqu'elle n'a pas donné de raison, normalement, on aurait dû dire, c'est un roc qui n'a pas de raison. Mais on va essayer quand même de trouver une raison. Il y a plusieurs raisons. D'accord? Une des raisons, la raison la plus simple que beaucoup de gens pensent, c'est que le shofar, c'est un son qui fait peur. C'est-à-dire, c'est un son qui est là, qui fait peur. D'accord? Bon, ça peut être une raison. Seulement, selon les shofars que les gens vont avoir, ça ne fait pas forcément peur. Alors, c'est quoi le shofar? Quoi sert le shofar? Il y a une réponse de mémoire, c'était Rabbi Yahya Gaon, qui répond comme ça. Qui dit que c'est quoi le but du shofar? Le but principal du shofar, il dit, à l'époque, quand on proclamait un roi, on sonnait les trompettes. Et c'était le signe, d'accord, qu'on avait annoncé un nouveau roi. Et il dit comme ça, il dit que ça, c'est la raison principale pour laquelle on sonne le shofar. Pour dire aux gens qui sont endormis, pour leur dire, réveillez-vous, acceptez la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu et faites teshuvah. Mais tout d'abord, le facteur principal de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est accepter la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que sinon, il faut comprendre que c'est vraiment égoïste. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que dans les tefilot de Rosh Hashanah, on est en train de faire la liste des courses? On a pris un casier, on dit, bon Dieu, voilà, hein, j'ai fait teshuvah, hein, bon maintenant, check, tu viens de ça, on est en train de faire la liste des courses. Mais c'est égoïste, c'est pas comme ça qu'on travaille. Rosh Hashanah, c'est d'abord le jour dans lequel on accepte la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'on se dit que qu'est-ce que je vais faire pour faire en sorte que l'année prochaine, je serai un peu plus soumis à Dieu. Après, en parallèle, je vais faire teshuvah sur ma avérot, et je vais réfléchir au fait que c'est le Yom HaDin, etc. Mais de manière générale, Rosh Hashanah, c'est pas un moment qui est triste. C'est un moment qui est solennel, c'est un moment qui est sérieux, mais c'est pas un moment qui est triste. Donc, je reviens maintenant à la question que j'ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce que je dis à mon Yetzahara lorsque le Yetzahara me dit, je te propose une avéra? Si je veux commencer à lui dire, il y aura une punition qui va venir après. C'est vrai que ça peut être un critère. Ça peut être un critère, je lui dis, je parle de la punition. Mais le problème, encore une fois, c'est que le Yetzahara, il va aller dans la surenchère. Ça veut dire, si je lui ai proposé, il m'a proposé une petite avéra. D'accord? Je lui ai dit, il y aura une petite punition. Alors, il me propose une plus grande avéra. Moi, je dois lui proposer une plus grande punition. Et on va dans la surenchère. Le Mourazakan ici a une autre approche, selon le Zohar. Il te dit comme ça. Il te dit, en fait, il y a une autre approche. C'est qu'un juif, par définition, il est dérangé de se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'on développe bien, bien, bien ça, parce qu'on a plusieurs chapitres sur ça. Par définition, de série, un juif est dérangé, ça lui fait de la peine quand il s'est séparé de Dieu. Il suffit de voir, c'est comme ce qu'Avener a dit tout à l'heure. Justement, j'explique tout de suite. La preuve, c'est que juste après que tu as fait la vera, comment tu te sens?
Pas bien.
Tu te sens mal. Pourquoi tu te sens mal?
Le remords.
Pourquoi tu te sens mal?
Parce que je me sens éloigné de Dieu.
Pourquoi tu te sens mal? Qu'est-ce que t'as fait? D'accord? C'est pas que tu... Alors écoutez bien, c'est pas que je me sens mal parce que je me dis, je vais prendre sur la tête. Non!
Tu regrettes?
Non, je regrette. Voilà. Mais attendez, voilà, c'est ça c'est qui est important. C'est là le point important. Il faut voir comment je vais regretter après. C'est pas que je vais regretter après en me disant, ah, maintenant Dieu va m'envoyer la punition. À la limite, la punition, j'y pense même pas. Peut-être j'y ai pensé avant. Mais après coup, j'y pense même pas à la punition. Je dis à la limite, bon, la punition, tant pis. C'est pas ça ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est le fait que j'ai fauté. Et ça me dérange. Profondément, ça me dérange, d'accord, d'avoir fauté et de m'être éloigné de Kadosh Baruch Hu. Alors vous allez me dire dans ce cas-là, si ça me dérange vraiment, pourquoi j'ai fauté? Pourquoi j'ai pas eu ce sentiment-là avant de fauter? Ça, on va voir dans la suite. Comment le Yetzahara a la capacité de nous endormir. Ça, on va voir dans la suite. Il a une capacité que Dieu lui a donnée de savoir nous endormir. Mais ce que je vais expliquer par là, c'est que le facteur le plus important, la manière de parler au Yetzahara, c'est de lui expliquer le fait qu'il va regretter après ce qu'il a fait. Pourquoi il va regretter? Il va regretter de s'être séparé d'Akadosh Baruch Hu, de sentir qu'il a fait quelque chose qui va décevoir quelqu'un. Je vous donne un exemple. Comme par exemple, un enfant qui va faire quelque chose qui va décevoir ses parents. Peut-être qu'au début, avant de le faire, il aura peur que son père va le frapper. Bon, il va le punir, il va le frapper, peut-être. Mais après coup, une fois qu'il a fait la bêtise, pourquoi il est dérangé? Vous croyez qu'il est dérangé seulement parce qu'il a peur que maintenant mon père va me frapper? Il a dépassé ça maintenant. Bon, mais tant pis, les coups, il les aura, c'est tout, c'est fini. Ce qui le dérange, c'est qu'il sait qu'il va décevoir son père. Et ça, la peine de décevoir quelqu'un, ça peut être beaucoup plus grand que la punition. C'est très difficile, ça fait beaucoup de peine quand on a déçu quelqu'un. Et ben, c'est la même chose. Il te dit ici, facteur numéro un, comment tu parles à ton Yitzhara, mais on va développer longuement, hein, je sais que là pour l'instant c'est encore un peu abstrait. Facteur numéro un, comment tu parles à ton Yitzhara, tu lui dis, Tu sais très bien que tu seras déçu après de t'être séparé d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi tu attends après pour le faire? Arrête-toi maintenant. Arrête-toi tant que c'est pas trop tard.
Tu vas regretter.
Okay. Puisque tu vas regretter de quoi? Pas la peine que tu vas être puni. Tu vas regretter de t'être séparé d'Akadosh Baruch Hu. Si vous voulez, ce que je vais vous montrer ici, c'est que il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté négatif, c'est la punition. Le côté positif, c'est le fait que je veux m'attacher à Dieu, je veux faire plaisir à mon père. Et donc, ça me fait de la peine de pas lui faire plaisir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le facteur principal de la relation qu'il y a, d'accord, des relations qu'il y a entre les gens, c'est pas la punition. C'est le fait que ça me fait de la peine de blesser quelqu'un. Par exemple, dans toutes les relations, même une relation qu'on a envers sa femme, par exemple, elle m'a demandé de faire quelque chose que j'ai pas fait. D'accord? Alors, tu dis, bon, elle va me crier dessus, elle va pas être contente. Bon, d'accord. C'est pas grave, ça. Ce qui me fait de la peine, c'est que je sais que je l'ai déçu. Quand tu sais que t'as déçu quelqu'un, ça fait beaucoup de peine quand tu sais que t'as déçu quelqu'un. Et ben, imaginez comment c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. C'est ce qu'il dit ici. Et donc, tant qu'à faire, pourquoi attendre de faire la bêtise pour être déçu? Pourquoi tu retiens pas? Alors, je dis pas que t'as la formule magique, parce que sinon, on serait tous des tzadikim. Mais déjà, on a au moins un argument. Benoni ou tzadik, d'accord? Mais au moins, on a un argument de Nation Yitzhara. Un argument qui est positif. Dans laquelle j'ai pas besoin de rentrer dans la surenchère, de dire j'aurai un Gehinnom, j'aurai ci, j'aurai ça. Parce que l'Itzara, ça lui parle pas de Gehinnom. J'en ai rien à faire ton Gehinnom, moi. Ça me parle pas ton Gehinnom. Tu l'as déjà vu le Gehinnom? Il faut rentrer dans quelque chose que la personne a vécu. Et ça, la personne sait qu'après qu'elle a fauté, elle se sent mal.
Mais je peux pas être déçu de quelque chose qui m'est de lui faire de la peine alors qu'il n'est pas pour rien.
J'ai compris. Mais tu sais, mais le problème, c'est qu'avec le temps, on se connaît. Avec le temps, on se connaît. Et on sait qu'on aura de la peine après l'avoir fait.
Non, mais c'est pas ça que je dis. Si ta femme, par exemple, c'est à cause d'elle que tu n'as pas pu faire ce que tu as demandé. Tu as moins peur de la décevoir dans ce cas-là.
Évidemment, oui.
Kadosh Baruch Hu, il n'est pas pour rien dans la faute que tu as fait. C'est lui qui a envoyé les erreurs.
Ok. Imagine-toi que ta femme t'a demandé quelque chose qui est très difficile à accomplir. Et que t'as pas pu le faire. Et que tu sais qu'elle t'en voudra très fort. D'accord? Non. Elle t'a pas mis le bâton dans les roues. Elle t'a demandé quelque chose de très difficile. Et que toi, c'est trop difficile. Tu peux le faire, mais très difficilement. D'accord? Alors, avant de le faire, tu dis, ah, oh, si je vais pas le faire, elle va me dire ça, etc. Concrètement, tu le fais pas. Après coup, qu'est-ce qui te dérange le plus? Est-ce que c'est le fait qu'elle va te crier dessus, enfin qu'elle va pas être contente, ou le fait que profondément tu sais que tu l'as déçu? Ouais. Quand c'est quelqu'un que tu aimes très fort, t'as de la peine de le décevoir. Mmh. T'as pas envie de le décevoir. Et juste, c'est justement parce que tu l'aimes que tu veux pas le décevoir. Plus tu l'aimes, plus tu veux pas le décevoir. C'est ça l'amour et la crainte. Parce que j'aime quelqu'un, c'est pour ça que j'ai la crainte de pas le décevoir.
Je veux pas
le décevoir. Ça va de pair. Donc c'est la même chose. Il te dit, pourquoi quand tu as la relation que tu as avec Dieu, tu dis j'ai peur qu'il va me punir. Mets la punition de côté. Oh, la punition, de toutes les façons, on finira tous au Guéhinnom. Bah, non, que ça change.
Sympa le cours, Tania.
Non, n'êtes pas moi, je vous dis la vérité. Moi, ça me dérange. Bah, de toute façon, Guéhinnom, il y aura, il n'y aura pas. De toute façon, il y aura ce qu'il y aura.
C'est en contradiction avec Colisra
et Shlem. Non, attendez, on finira par les voiles là-bas après. Bon. Mais on fera tous un séjour au Gehinnom. En tout cas, moi, je pense que tu feras un séjour au Gehinnom. Mais je pense que tout le monde fera un séjour au Gehinnom.
Il faut monter les mettra.
C'est quoi, tu veux faire un séjour?
C'est ça ce que je t'ai dit aussi. C'est ça ce que te dit la Chassidoute. La Chassidoute te dit, on n'est pas là en train, d'accord? On n'est pas là en train de travailler pour ne pas aller au Gehinnom. D'accord? On n'est pas là en train de travailler sur le patrimoine immobilier qu'il y a après 120 ans. Nous, on travaille. Je réponds à la question de Mickaël, est très importante. Rabotaille. Mais quelle idée là, pourquoi on fait tout ça? Moi, mon but, c'est d'essayer de faire en sorte que d'année en année, j'essaye de faire plaisir à Dieu. Tu comprends? L'enfant qui fait plaisir à son père, c'est pas il se dit, ah, comme ça, quand papa, il va partir de ce monde, j'aurai un bel héritage. Tu parles pas comme ça. Mais il aura un héritage. Mais c'est pas mon but. Je fais pas ça parce que je veux qu'il me donne un cadeau. Je fais pas ça parce que je veux qu'il me donne un héritage. Je fais ça parce que je veux lui faire plaisir. Ça, c'est la vraie raison. En parallèle, je reçois un cadeau, ça me fera plaisir, pourquoi pas. Mais c'est pas ça le but. Je fais pas parce que je veux un cadeau. C'est la même chose. Moi, maintenant, pourquoi je fais une mitzvah? C'est pas parce que je veux que Dieu me récompense. Il va me récompenser, y a pas de problème. Mais mon but, c'est que j'ai envie de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que je parle à mon Yitzhara. Je lui dis, regarde. Tu sais comment je vais avoir de la peine après que je vais le faire que d'avoir déçu à Kadosh Baruch Hu? Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus à notre portée. Pourquoi? Parce que, punition, pas punition, ça me parle pas, ça. Et même si ça me parle parce que quelqu'un, il a réussi, un prédicateur a réussi à m'impressionner, mais demain, ça me parle plus. Parce que c'est fini. Et donc, la surenchère, ça me parle plus. On est obligé d'après la Chassidoute, on est obligé de chercher quelque chose de beaucoup plus positif. Mais ça. Et ça, c'est l'approche générale de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on est Bessimra. Alors, Rosh Hashanah, on est Bessimra. Certes, c'est un moment solennel, mais on est Bessimra. Pourquoi on est Bessimra? Parce qu'on est Bessimra d'avoir couronné Akadosh Baruch Hu comme un roi. Alors certes, maintenant, une fois qu'il réanalyse notre dossier, on ne sait pas ce qu'il va nous prévoir pour l'année d'après. Mais à la limite, c'est annexe. Moi, ce que je veux, c'est me dire que J'ai décidé de couronner Akadosh Baruch comme un roi, et j'ai décidé que cette année sera différente, et j'ai décidé que maintenant, cette année sera pas comme l'année d'avant, et donc je vais accepter la souveraineté d'Akadosh Baruch. Et ça, ça vaut tout l'or du monde.
Le changement, c'est maintenant.
Le changement, c'est maintenant. Yes, weekend.
Alors, voilà. Pardon. Moi, je trouve que ça, c'est OK pour une avéra, entre guillemets, qu'on va désirer, qui va mûrir dans la tête.
Oui.
Je prends l'exemple, Rasbechalom, mais voilà, quelqu'un, il a vu une fille passer, ah, il l'a dans la tête, machin, il dit, je vais fauter avec elle, machin.
D'accord.
Donc, ça le travaille.
Et ça, lâche
pas. Il veut dire, voilà. Moi, je prends mon exemple à moi, je suis très nerveux.
D'accord.
Alors, quand mes enfants, ils me font un truc, ah, tout de suite, je vais mettre en colère.
Et
après, je regrette, ah, pourquoi je me suis mis en colère, c'est un enfant, j'aurais dû lui parler, ça sert à rien. Donc, ça, OK, mais le problème de la colère, c'est que c'est quelque chose de tellement impulsif qu'on n'a pas le temps de se dire oui, mais qu'est-ce que je vais faire si je me mets en colère, etc. Trop tard, c'est déjà fait. Tu m'as dit quelque chose, tac, je suis parti, j'ai bondi en un quart de seconde.
Tu peux prendre la décision.
Alors justement, si je dis par exemple à Rosh Hashanah, je prends la décision de plus me mettre en colère. J'arriverai pas.
Non.
Alors, justement, on dit il faut prendre des points. Mais alors concrètement, comment on fait
très bien.
Quel point
je te donne un exemple. Voilà, très bien. Je te donne un exemple. Tu peux prendre par exemple la décision que quand quelque chose t'énerve, d'accord, tu attends 30 secondes avant de réagir.
Jamais à chaud.
Tu peux le faire ?
Jamais à
chaud. 30 secondes. Ouais. 30 secondes. Après, tu décolles des droits, t'es pas trop.
Non, mais 30 secondes, t'attends.
De... Sur mon compte.
C'est vrai. Mais
d'accord.
Mais de toute façon, c'est...
30 secondes. C'est 30 secondes à la montre. Tu peux le faire ?
Ouais.
C'est jouable, ça. Tu peux retenir 30 secondes.
Exactement.
D'accord ? Après, tu décolles des droits, t'es pas de problème.
Non, mais c'est vrai. Tu vois, t'en décolles des droits, c'est...
Non, j'ai compris. Après, tu cries.
Voilà, exactement.
D'accord ? Après, tu cries.
Justement, c'est là le problème. C'est dans les 30 secondes. C'est les 30 secondes.
Tu peux le faire ? Alors, des fois tu vas réussir, des fois tu vas pas réussir. Mais au moins ce qu'on a gagné, c'est qu'on a un plan concret.
Voilà,
on a un plan concret. J'ai quelque chose de concret, de réel. C'est pas un truc dans les airs que je dis je m'énerverai plus. Ça marche pas, ça. J'ai quelque chose de concret, de réel. Tu comprends ? Quelqu'un qui dit par exemple cette année je vais étudier plus la Torah. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas rajouter quoi ? Il dit voilà, je prends sur moi tous les lundis soirs venir au cours de Tania. Ça c'est quelque chose de concret.
Exactement.
C'est quelque chose de réel. Eh bien il va dire je prends sur moi un lundi sur deux. D'accord ? Peu importe. Même un lundi sur quatre. Mais il a pris sur ça quelque chose de concret. Quand c'est concret, ça marche. Quand c'est pas concret, ça marche pas. C'est comme dans les affaires.
Tu parles d'un engagement.
Oui.
Je veux revenir juste sur ce qui est même autorisé.
Oui.
Sur lequel on doit se retenir. Est-ce que déjà on est à un niveau supérieur.
C'est un autre niveau.
Mais je me demande finalement si c'est pas aussi là-dessus que tu commences aussi à travailler.
Le Benoni, il est à un niveau dans lequel il pense pas seulement au plaisir interdit, il pense aussi au plaisir permis. Puisque la recherche des plaisirs, au bout du compte, t'amène à des plaisirs interdits.
Avec modération.
Ouais, mais on va dire qu'on... je me suis pas arrêté beaucoup dessus, et l'Admor HaZaken ne s'arrête pas longuement dessus, parce que on est...
Enfin... simplement, c'est vrai, ça fait penser plus à une pensée des monastères et des machins,
ouais.
Des gens qui...
Je suis nerveux, mais...
Plus que dans ce qu'on se dit...
Écoute, la Torah n'interdit pas les plaisirs, mais la Torah te demande de sanctifier dans ce qui t'est permis.
De quoi
de sanctifier dans ce qui t'est permis.
Voilà.
Par exemple, un juif quand il mange, d'accord, je donne un exemple. Non, pas seulement ça. D'accord. Quelqu'un quand il mange, il peut manger comme un animal, il peut manger comme un homme. Tu comprends ? Maintenant, il mange la nourriture cachère avec une bracha, donc c'est cachère ce qu'il a fait. Mais la Torah te dit, tu vas manger comme un homme. Ça veut dire, tu vas manger calmement, doucement, tranquillement. Tout ce que tu fais, tu vas dormir comme un homme. D'accord ? Tout ce que tu fais, tu vas faire comme un homme. Tu vas aller aux toilettes comme un homme. D'accord ? Ça veut dire que ça veut dire que chaque chose de la Torah te dit, elle te dit que tu vas le faire comme un homme, bien que c'est quelque chose de permis. Mais ça, c'est déjà une autre gamme.
Le problème, c'est donc hein, on fait tous.
Bien sûr, oui.
Enfin,
j'espère,
moins,
oui. Ouais. On fait tous, je sais pas. Il faut être raffiné, il faut se raffiner.
Oui, d'accord.
Après, c'est... Ok ? C'est-à-dire, quand par exemple, on va donner un bon steak, est-ce que tu vas l'arracher comme un chien ?
Ah non, doucement.
Ou bien est-ce que tu vas le manger comme un homme ?
D'accord.
Tu vas manger, tu vas couper morceau par morceau.
Le kiff.
Hein, voilà.
Attention, quand tu kiffes,
mais pourquoi ? C'est interdit de kiffer.
Bon, non. Je refais la parenthèse. En tout cas, je reprends dans les mots maintenant. Et donc on va lire un peu dans les mots. Et en fait, je vous ai laissé le plus dur pour la semaine prochaine, pour qui pour la semaine de qui pour. Alors, Omro le Libo. On va faire quelques lignes encore. Progressif. Alors. Eh bien, non. Kippour, ça vient pour récupérer ce qu'on n'a pas pu faire avant.
Kippour, c'est la fin du lavage, alors c'est chaud, quoi. Si la voiture elle est bien sortie, c'est bien.
C'est l'essorage.
Déjà, le plus dur, c'est de mettre le train sur les rails. C'est Rosh Hashanah. Vous savez, Rosh Hashanah en hébreu, Rosh Hashanah, ça veut dire la tête de l'année. Pourquoi on appelle Rosh Hashanah la tête de l'année ? Normalement, Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Quelle est la différence entre le début et la tête ? C'est que quand tu dis le début, Ça veut dire qu'il y a un point qui est là et il y a un point qui est là. Le point de la fin n'a aucun rapport avec le point du début. Seulement, il faut bien qu'il y ait un premier point qui est certes très important, mais il y a un début et il y a une fin. Et la fin n'a rien à voir avec le début. On n'a pas appelé Trilat Hashana, on a appelé Rosh Hashana, la tête de l'année. Pourquoi ? Pourquoi la tête ? Parce que la tête gère même le doigt de pied. On est d'accord ? Quand j'ai mon doigt de pied qui a poussé, qui c'est qui lui a donné l'ordre ? C'est la tête. Ça veut dire que quand tu as un bon Rosh Hashana, il influe sur toute l'année. C'est pour ça que je dis que c'est pas seulement qu'on met les trains sur le rail. Un bon Rosh Hashana, ça influe sur toute l'année. C'est pour ça que le rabbi Yosef Yitzhak qui disait que Rosh Hashana, ça, pourquoi on dit que Rosh Hashana on dort pas, d'accord, pendant l'après-midi, et qu'on essaie de lire un maximum de Tehilim ? Parce que quand on a un bon Rosh Hashana, toute l'année elle va bien. C'est comme ça que ça se passe. Rosh Hashana, ça influe sur toute l'année. C'est comme la tête de l'année. Quand la tête est en bonne santé, on a de fortes chances que le reste du corps le sera. Quand la tête n'est pas en bonne santé, bah malheureusement, même si les autres membres sont en bonne santé, ça passera pas. Voilà pourquoi c'est très important d'insister sur Rosh Hashana. Donc on va continuer maintenant dans l'argumentaire que va dire le Benoni à son Yetzara. Il va pas lui dire, il y aura une punition après. C'est pas ça, bien qu'il y aura une punition. C'est pas ça ce qu'il va dire ici. Beomro Belibo, en se disant, Einani rotze liot racha afilusha achat. Comment il va convaincre son Yitzhara de ne pas fauter? Il va essayer en tout cas. Il va se dire, je ne veux pas être un racha, ne serait-ce qu'un seul instant. Kieneini rotze liot mufdal venifrat razeshalom hachemechad. Je ne veux pas être séparé et détaché, razeshalom, de Dieu, de l'unité de Dieu. Beshum ofen, en aucun cas, d'accord? Kedirtil, comme c'est écrit, avonotecha meyumavzilim. Pourquoi, après que j'ai fait la Avera, je suis dérangé? Pourquoi je me sens mal une fois que j'ai fait une Avera? Parce que je sens que la Avera m'a détaché d'Akadosh Baruch Hu. Je sens que la Avera, j'ai déçu Akadosh Baruch Hu. Une Avera me détache d'Akadosh Baruch Hu. Une Avera fait en sorte que je ne suis plus aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme avant. Pourquoi un fils ne veut pas décevoir son père? Parce qu'il sait qu'aux yeux de son père, une fois qu'il aura déçu, il ne sera plus comme avant. Donc le Benoni, qu'est-ce qu'il dit à son Yitzhara? Il se dit, je ne veux pas fauter parce que je ne veux pas me détacher d'Akadosh Baruch Hu. Je tourne la page. Donc il dit, je ne veux pas un seul instant. Et ça me rappelle un mot du Ayom Yom. Ayom Yom du 25 Tammuz, le Ayom Yom qu'on fait ici tous les matins. Dans le Ayom Yom du 25 Tammuz, il dit comme ça. Il dit, un juif ne veut pas et ne peut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Ah, dans ce cas-là, pourquoi il faute? Comment c'est qu'il faute? D'accord? Comment ça se fait qu'il faute? Comme on va expliquer la semaine prochaine, parce qu'en vérité, il a un rouar shtout. Il a un vent de folie. Il a un esprit de folie qui le pousse à faire des avérances. D'accord, mais ça, je vais laisser pour la semaine prochaine. J'ai pas envie de bâcler, je sais que, voilà, on a un peu de temps, mais je vais pas bâcler pour la semaine prochaine. Je vais juste résumer ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a expliqué aujourd'hui? Le Benoni, c'est la Mida qui est accessible à tout le monde. Tout le monde peut devenir Benoni. Un Benoni, c'est quelqu'un qui a des buts qui sont réalisables. D'accord? Il ne cherche pas des buts qui sont inaccessibles. Notamment, le Benoni, il va travailler sur l'action, la parole, la pensée. Ça veut dire qu'il va chercher un but qui est réalisable. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Le Benoni ne va pas se dire que dorénavant j'aurai plus de pulsions négatives. Non! Le Benoni sait qu'il continuera à avoir des pulsions négatives. Alors comment il va se travailler le Benoni? Le Benoni va se dire, je vais essayer de faire en sorte que malgré, bien que j'ai une pulsion négative, quand même, je vais essayer de faire en sorte que je n'en parlerai pas, j'y penserai pas, et donc, je n'agirai pas. C'est ce que le Benoni va travailler. Quel est maintenant l'argument concret que le Benoni va dire à son Yitzhara? Qu'est-ce qu'il va dire à son Yitzhara? Il va pas lui dire, t'auras une punition. Non. Il va lui dire, tu vas regretter après la Avera. Pourquoi tu vas regretter? Parce que tu as senti que tu t'es séparé d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je suis conscient que c'est un petit peu abstrait, ça. Et surtout, la question qu'on peut se poser, on peut se dire, mais attends, est-ce que ça me parle à moi aujourd'hui maintenant? Est-ce que tu es sûr que moi, maintenant, je vais dire ça à mon Yitzhara, il va m'écouter? Et c'est là que, je vous donne un petit preview du thème du cours de la semaine prochaine. Le thème du cours de la semaine prochaine, c'est qu'il va nous expliquer comment, en vérité, on a en vérité tout ça inné en nous. Cette capacité de convaincre son Yitzhara. Seulement, même une personne qui a toujours fauté, il a en lui cette capacité de convaincre son Yitzhara. La preuve, c'est quoi? C'est que même ce grand rachat qui fait d'Averot et que toi, quand tu le vois, t'as l'impression qu'il regrette jamais, hein, il est toujours à la Ferrari avec les bêtises, le Shabbat, etc.
Non, pas d'accord, la Ferrari.
La Ferrari, on laisse tranquille. Bon, on faute avec une Porsche, alors.
Voilà.
Même celui-là, sache que la Gemara te dit que Rachaim, Chayem, Leim, Charatot. Les Rachaim, leur vie est pleine de regret. Un rachat regrette toujours. Toujours. Pourquoi? Parce que l'âme divine que tu as en toi, personne ne te l'enlèvera. Et cette âme divine ne te lâche pas. Et que même si temporairement, tu ne l'écoutes pas, tu l'éteins, d'accord, tu ne la laisses pas parler, une fois que tu as fini la vera, elle revient. Et donc, ma rochma à moi va être de savoir parler et de dire, pourquoi tu attends après coup pour regretter? Pourquoi tu ne regrettes pas avant? Autant ne pas fauter.
C'est comme ça, on va développer longuement Bezrat Hashem la semaine prochaine.
Sauf le Racha Gamour, il a plus de regrets.
Non, le Racha Gamour, il n'arrive plus à regretter.
Ah,
il aurait bien. Le Racha absolu, il est très dérangé, mais il n'arrive plus à s'en sortir. Il est dans un cercle vicieux. Mais il s'en veut.
Il est dépassé.
Ça n'existe pas un juif qui s'en veut pas d'avoir ce qu'il a fait. Ça n'existe pas. D'accord, non, mais c'est, ça, c'est autre chose. D'accord. Donc pour lui, c'est pas du mal. Très bien, pas de problème. Mais le jour où tu lui expliques du mal.
Mais c'est quand même du mal.
J'ai compris. Mais il sait pas. J'ai compris. Mais il sait pas. Comme il sait pas, il sait pas. Je peux te dire quelque chose de garanti, que toute personne qui sait qu'une avéra est interdite, même s'il acquitte grave et qu'il n'arrête pas, s'il n'arrive pas à s'en sortir, il regrette à chaque fois. C'est mon problème, c'est que des fois, il est dans un tel cercle vicieux qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Mais ça n'existe pas une avéra qui ne se regrette pas. Ça n'existe pas. Et donc ça, c'est en vérité. Alors, on ne fait que commencer. Voilà, en vérité, je peux vous dire qu'on va passer plusieurs semaines sur ça. À donner des techniques pour parler au Yetzer Hara, pour lui dire, puisque tu sais que tu vas regretter, alors pourquoi ne pas t'arrêter plus tôt ?
La Gemara a dit que quand on fait une avéra plusieurs fois, elle devient Kéhéter.
Oui.
Comment est-elle sur Kéhéter ? Il n'y a pas de regret, ça veut dire.
Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de regret. Ça veut dire que ça devient facile.
Non, pas facile. Permise.
Donc permise, dans le sens que je la fais.
Non, ça, je te l'autorise. C'est simple pour moi.
Je me l'autorise. Mais ça ne change pas que dans ma tête, une fois que je l'ai fait, je suis dérangé. Regardez, c'est très simple. Il suffit de prendre n'importe quelle avéra qu'on fait. D'accord ? Est-ce que, honnêtement, est-ce qu'après qu'on fait l'avéra, une fois que je sais que c'est interdit, est-ce que je m'en veux pas ? Toujours je m'en veux. Pourquoi je m'en veux ? Pourtant, l'avéra, je l'ai fait très souvent. Je l'ai fait plusieurs dizaines de fois par an. Alors pourquoi je m'en veux ? Je m'en veux parce qu'au fond de moi, je sais que c'est pas bien.
Je parlais d'une chose qui n'est pas vraiment une avéra, mais qui est des choses qu'on faisait à personne.
Nous, on veut d'Averod.
Le léchamon.
Non, on veut d'Averod.
Non, le léchamon.
On veut d'Averod, nous, on veut.
Le léchamon.
Oui.
Pendant 18 ans, je range comme jamais le léchamon. Au début, du lait dans le chamon. Quand j'ai commencé à prendre une tagenda à droite à gauche, ça me faisait quelque chose. Maintenant, ça ne fait plus rien.
D'accord.
En train, pour moi, c'est même plus une avéra. C'est comme le léchamon, c'était une troubra qu'on faisait, qui n'est plus du tout d'actualité.
C'est vrai, mais c'est pas une avéra.
Ah, c'est pas une avéra.
Non, ça revient une troubra. Je le fais, mais c'est pas une avéra. C'est pas une avéra de prendre. Ça dérange quand on le fait, mais c'est pas une avéra. Là, je parle d'une avéra, quelque chose qui est clairement une avéra.
Genre mon verre.
Voilà.
Comment on explique ça ? C'est que l'enfant, quand il naît, il est 0 à 13 ans, c'est une notion
minimale. Oui ? Bah oui, c'est la même chose. Parce que, progressivement, la volonté, la pulsion se développe. Et moi, qu'est-ce que je réponds à cette pulsion ? Qu'est-ce que je réponds à cette pulsion ? Le Tzara, il me propose une pulsion. Qu'est-ce que je lui réponds, moi, à ça ? Si je veux commencer à lui répondre, tout à l'heure plusieurs ont répondu, quand le Tzara me propose une avéra, je vais lui dire, viens, on fait une mitzvah. C'est pas sûr que ça marche.
On doit pas lui donner un mot qui peut manger de temps en temps.
Si, tu peux lui dire, viens, je te donne autre chose. Mais des fois, comme il t'a dit, des fois, la pulsion est tellement forte qu'il faut un argument choc. Lui dire, ouais, viens, on fait une mitzvah. Il dit, c'est pas tranquille, on fera après ta mitzvah. Il faut un argument choc qui marche. Et là, t'as un argument choc, là, mais qu'on va devoir développer. Un argument qui te dit, écoute, avec l'expérience que tu as, tu sais très bien que tu vas regretter après. Mais sans parler de mitzvot, etc., de guéinom, etc.
C'est la tentation.
Tu sais qu'après coup, tu vas être dégoûté de ce que tu as fait. Pourquoi tu le fais ? Alors, ça ne veut pas dire qu'on va devenir des tzadikim. Je vous rassure, on continuera à fauter. Bon. Mais au moins, si on peut réussir, par exemple, à faire en sorte qu'au lieu de fauter 100% des cas, je vais fauter 50% des cas, ben j'ai gagné 50%. Et c'est déjà ça de gagner. Et après, si je réduis 49, 48, 47, après c'est au corps à corps. Mais là, on a un argument qui tient la route.
Parce que tu avais dit l'autre fois, quand on fait la prière, avant de s'adresser à Dieu, d'abord on dit qui on est.
Oui.
Et ensuite, il s'occupe plus du etc.
Oui.
Avant de demander.
Exactement.
Donc le temps de la prière. Dès le départ, peut-être parler à Dieu directement pour qu'il puisse s'occuper du etc.
Là, je parle pas à Dieu là.
Ah.
Je parle moi de ça.
Tu peux s'en occuper, c'est-à-dire.
Oui, non, mais là, je parle moi de ça qui veut faire une faute. D'accord. Je parle moi de ça et je lui explique pourquoi je dois pas le faire. Je lui dis pas t'auras le guéinom, parce que ça lui parle pas ça.
Ouais.
Il en a rien à faire. Et ça lui fait pas peur. Je lui dis, par contre, quand je lui dis tu vas regretter après, là déjà ça me parle un peu parce que je sais que avec mon expérience, je sais que je regrette après. Je sais très bien que je regrette après. Je le sais avec mon expérience. Seulement, ce qu'on va expliquer la semaine prochaine, c'est que le Yetzara il est aussi très fort et qu'il arrive à endormir mon esprit pendant certains temps. C'est-à-dire, quand il te propose une avéra, il arrive à t'endormir tes neurones. Tac! Il te les endort. Il te laisse parler que ton cœur. Et en vérité, il va tellement te happer ton corps que tant que tu n'as pas fini, il te lâchera pas. Et c'est très très dur à ce moment-là de ramener le cerveau pour dire non. C'est très très dur parce que le Yetzara il te prend par les sentiments. Très très dur.
C'est quand t'es inactif.
C'est possible mais c'est très très dur. Sinon, on serait tous des tzadikim. Hein,
quand, en général, c'est
quand tu es inactif, quand, oui. Oui,
bien sûr. Inactif,
bien sûr. Il faut toujours l'activité.
Mais je pense qu'il n'y a qu'une action qui peut régler ça. Parce que c'est vrai que quand tu as une envie, je sais pas, on parlait de jambon beurre tout à l'heure, le type qui a une envie de manger son jambon beurre et tout, il y a, à mon avis, s'il se met à parler à son Yetzara, mais attends, qu'est-ce que je vais gagner et tout, je sais pas s'il va arriver comme ça. Par contre, s'il fait un truc de concret, s'il se dit à chaque fois que j'ai cette envie, je dis n'importe quoi, je lis 5 Tehillim, machin, ou, peu importe, mais une action concrète qui va le battre. À mon avis, c'est plutôt par l'action que
alors, tu as raison. Tu as raison que ça se prépare en amont.
Parce que le coup de la philosophie, il va y arriver une fois ou deux, mais après, bon, c'est bon, tu me l'as.
Alors, je comprends. Je comprends ce que tu veux. Non, c'est un point important ce que tu dis. Je réponds à la question. D'accord? Ça aussi, on va développer dans la suite. C'est évident que ça ne va pas s'improviser. C'est-à-dire, c'est pas que tu dis que j'attends qu'il m'amène la Vera, et quand il m'amène la Vera, je parlerai avec lui. C'est déjà trop tard quand il t'a amené la Vera devant tes yeux. Il faut préparer en amont ça. Tu connais tes points faibles, tu connais tes avérotes que tu fais, et donc tu vas réfléchir maintenant, objectivement, d'accord, pourquoi succomber à la avéra, je finis toujours par regretter. Et comme ça, quand il me la présente, la avéra, il va la présenter 100 fois dans l'année. Si j'ai réussi à me retenir 50 fois, c'est déjà énorme. C'est énorme. Alors maintenant, après, les gens vont dire, oui, mais 50 fois, je suis tombé. Je dis, mais de toutes les façons, tu es tombé 100 fois. Donc c'est bête de dire. Donc c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir sur le nombre de victoires que tu as avec le Yetzara. Il y a un nombre de victoires, pas le nombre de fois où tu as perdu. Parce que perdre, on perd d'office. C'est comme ça. D'office, on perd avec le Yetzara. Chaque fois que tu as gagné, c'est une victoire supplémentaire. Donc par exemple, tu parlais de la colère tout à l'heure. De toutes les façons, tu sais que. Enfin, je sais que je suis coléreux, par exemple. Je parle sur moi, comme ça, il n'y a pas de
problème.
Je sais que je suis coléreux, je le sais. C'est quelque chose que je sais. Donc, me dire attendre 100% de réussite, je n'y arriverai pas. En tout cas, pas pour cette année. Par contre, me dire, je me retiens 30 secondes et grâce à ça, essayer de récupérer 50% des cas ou même 20% des cas, etc., c'est déjà pas mal. C'est quelque chose de gagné. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire, c'est un but qu'on peut atteindre. Donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va développer, comme on a expliqué, comment parler au Yetzara. Donc là, on a commencé à dire que je dis au Yetzara le fait qu'il va regretter par la suite. Et on va expliquer, surtout, on va s'arrêter longuement sur ça, pour expliquer les deux points. Comment, en vérité, il n'y a pas besoin de faire des efforts pour y arriver là, puisqu'en vérité, on a des outils de série qu'on a en nous. Dieu nous a donné des outils à un juif particulièrement. À un juif, il a donné des outils qu'il n'a pas donné au goyim, qu'on va développer la semaine prochaine. La semaine de Kippour, c'est le meilleur pour se préparer à ça. D'accord? Il a donné à un juif des outils qu'il n'a pas donné au goyim pour pouvoir être capable de battre son Yetzara. En tout cas, de parler à son Yetzara et de faire en sorte qu'on n'écoute pas son Yetzara. D'accord? Donc ça, Bezrat Hashem, on développera tout ça la semaine prochaine. Voilà. Shana Tova, Umetuka, à tous.
Ça m'a fait rappeler un cours que j'avais entendu, du coup, ça m'a fait rappeler ce que tu as dit.